Et maintenant, voici la rediffusion du Libre Journal de Serge de Bekech, l'émission d'hier soir. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 2h.
Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel.
Et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, assisté par Victoria, diffusé en direct mercredi 7 mars 2007 de 18 à 21h, en différé jeudi 8 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à contact@radiocourtoisie.com.
Amis de la Résistance, bonsoir. Je voyais pas la petite lumière, rapport à des livres qu'il y a devant.
Elle résistait, elle s'était cachée.
J'ai pas parlé anglais, hein. J'ai fait trois fautes de français dans la même phrase, mais je ne dois rien mettre dans le nord.
Lumière rouge.
Lumière rouge, comme la lanterne.
Voilà. Le rouge émis.
Donc ce soir, nous recevons, enfin autour de moi, pour recevoir notre invité, nos invités, par ordre d'entrée en scène, monsieur le marquis, Jean-Paul Chériguez de Olmeta et autres lieux découverts à Marabas, bien entendu.
Votre serviteur, chef.
Monsieur Goffman, évidemment c'est moins chic, hein, tout de suite.
On peut en rajouter.
Soi-disant blanc.
Blanc ou russe blanc ou prétendu-tel.
Oui. J'aurais dû commencer par Victoria, mais vous l'avez entendu,
moi,
vous avez entendu sa voix mélifluée. Bonjour Victoria.
De moins en moins.
Et monsieur Jean-Pierre Rondeau.
Du cabinet SDP.
Du cabinet
Pikachu.
Vous allez nous donner un truc pour gagner du fric ou vous allez simplement.
Je vais essayer de ne pas vous en faire perdre.
Bon, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et puis, nous recevons ce soir monsieur Christian Turpin, qui est officier de marine, qui est chercheur et trouveur aussi, d'ailleurs, tant qu'à faire, et qui a écrit un livre extrêmement intéressant, qui est une application de la théorie de l'événementialité, et qui, ce livre s'appelle « Les cinq destins de la France ». Alors, je résume, si je dis une bêtise, vous m'arrêtez tout de suite. Il s'agit, en utilisant les précédents historiques connus, comme l'histoire de le précédent macédonien, le précédent athénien, le précédent bithynien, le précédent épirien et asmonéen, de réfléchir sur ce qui peut se passer en France dans les semaines qui viennent. puisque la France est un tournant de son histoire, comme ça lui arrive d'ailleurs à peu près maintenant tous les 5 ans. Avant, ils essayaient de faire tous les 7 ans, mais... Voilà. Et puis, comme... Tiens, c'est intéressant, ça. Arrêtez immédiatement
c'est
cette...
Le chef.
Arrêtez ça immédiatement. Je ne dénoncerai pas la personne qui a laissé sonner son téléphone.
Qui a pété.
Je ne sais pas si je vais le garder, le dauphin, parce que non seulement il n'a pas de particules, mais il n'a même pas de partie tête. Et puis, on a un invité surprise qui est de passage, qui est François Robot, qui est un journaliste spécialisé dans la gastronomie et la consommation, et qui viendra peut-être, il vient là pour voir comment ça se passe, et il viendra peut-être par la suite nous faire des petites chroniques de restauration et de consommation, c'est-à-dire... pourquoi faut-il manger ça et pas ça? Faut-il préférer, par exemple, le saumon sauvage au saumon d'élevage? Hein? Qu'est-ce que vous avez répondu, vous, Marquis?
Moi, je réponds tout de suite le saumon sauvage. Et voilà, évidemment, là, je me suis planté.
Bah, voilà, bien sûr. Donc, vous y finirez à l'hôpital comme tout le monde. Voilà. Alors, l'actualité, elle est ce qu'elle est. J'allais dire que je voulais dédier cette émission à Raymond Barre. Parce que Raymond Barre, il faut quand même dire...
Qui a mis la barre assez haut.
Il a la barre assez haut. Non, mais c'est surtout parce qu'il est quand même... Il faut savoir, ça, c'est intéressant. Il a été l'un des fondateurs de la Trilatérale. Il a été également l'un... Ça, je parle noctus cum libro, c'est-à-dire savant avec le livre... Je traduis pour les moins de 40 ans.
Peut-être mettre des sous dans la boîte aussi, quand même.
Ah non, non, c'est juste pour l'anglais.
On en prend.
Je cite là l'excellente encyclopédie politique de mon camarade Ratier. Donc, Barre, cofondateur, enfin, membre fondateur de la Trilatérale, membre du, comment on appelle ça? Le Sommet de Davos, Club de Davos.
Meilleur économiste de France, excepté Rondeau, bien sûr.
Oui.
Meilleur économiste. Baptiste, toujours d'ailleurs.
Non. Meilleur économiste de France.
Je suis gérant de patrimoine. Je ne suis pas un grand spécialiste de finances.
Mais c'est Ségolène.
En vous tout cas, je voulais dire que.
Pas mal de choses.
Barre, pour ce qui est de la gestion de son patrimoine, voilà. Il ne s'est pas trompé. Il y a une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat qui peut en témoigner. Avec un ascenseur.
C'est une très bonne affaire.
Oui, ouais, une belle affaire. Oui, c'est ce qu'on appelle une belle affaire, effectivement.
Ouais. Parce que Sarkozy
il est dans les choux, là, il est ridicule, il ne tient pas la route. Donc,
qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs?
Qu'est-ce
je
qu'il
sais
a
pas
dit
moi.
Qui
Raymond Barre, il a dit des horreurs.
Ils vont le poursuivre, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, j'en ai ras-le-bol de perdre mon temps au tribunal, je passe mon temps à aller voir des juges d'instruction.
Il a dit vraiment des grosses horreurs. Sincèrement, je n'ai pas entendu.
Je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais Deutsch, ça n'a rien à voir. C'est pas pour ça que je dédie cette émission.
Ah
bon. C'est en tant que fondateur de la Trilatérale.
Puis en tant qu'ancien Premier ministre avec Papon comme ministre, on entend c'est assez maintenant.
Voilà.
Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une pensée aussi pour notre invité régulier Nicolas Miguet, qui est à la peine aujourd'hui? J'ai gaffé, chef.
Non, pas du tout. Je parlais du journal de Miguet.
Le journal de Miguet.
Oui, les aventures de Miguet. Alors, je traduis pour les malentendants. Il est en cabane, en garde à vue.
Non, garde à vue.
Oui, mais attendez. Moi, j'ai été en garde à vue aussi. C'est pas une tare d'être en garde à vue. C'est même plutôt un honneur.
Bon, c'est différence. Et moi, j'avais des listings un peu, non
voilà. Ah oui.
C'est une mémoire d'une vieille histoire.
Oui. Oui, mais ça, c'est des coïncidences comme ça. Vous voyez, on a le même imprimeur avec Miguet. Enfin,
oui.
On avait le même, ou on a toujours, d'ailleurs, je ne sais pas. Enfin, je sais pas s'il imprime quelque chose. Et un beau jour, j'ai découvert que tous mes abonnés avaient reçu
le journal de Miguet.
Le journal de Miguet. Au lieu de recevoir ils recevaient le livre journal, mais en plus, ils avaient le journal de Miguet.
On avait de la chance.
C'est curieux, cette coïncidence.
Alors,
non seulement on a le même
imprimeur,
mais on a le même listing que j'avais déposé chez mon imprimeur.
Il
avait disparu d'ailleurs de chez
moi. Je peux ajouter, je ne sais pas si c'est honorifique une condamnation. Je me souviens moi très bien qu'il y a une dizaine d'années Nicolas Miguet avait
vous pouvez pas en parler, c'est amnistié.
Vous pouvez pas dire qu'il a été condamné à 400 000
non,
francs.
Non, vous pouvez pas le dire parce que c'était amnistié. Donc ne dites pas qu'il a été condamné à une
mort. Alors je ne dis pas.
Voilà. Bon.
Alors, c'est intérêt parce qu'autrement on n'est pas sorti de l'eau.
Nous appelons ça une prétérition dans notre jargon.
Oui, enfin vous, parce que moi je ne sais même pas ce que ça veut dire.
C'est quand Le Pen dit l'événement pour ne pas dire l'incident.
Ça, c'est ça, voilà. L'intéressant.
Voilà, il le dit pas, mais il y a des gens simples qui s'imaginent qu'il l'a dit quand même. Par exemple, nos confrères des gros médias qui hurlent à la mort depuis 3 semaines parce qu'ils n'ont rien trouvé de mieux.
Il paraît qu'il y a une taupe au front, mais moi je crois que c'est plutôt un phoque en réalité. si j'en crois certains échos que j'ai eus.
Précisez votre pensée, Serge de Becquet. Je résume, je traduis pour les malentendants, les auditeurs qui ne peuvent pas être sur France Info toute la journée. On a arrêté brièvement et relâché, mis hors de cause, un travailleur ou une travailleuse du paquebot, c'est-à-dire le siège du front.
C'est un travail du paquebot.
C'est un phoque ou une phoquesse,
suite donc au piratage des listings, pardon, et j'en suis de 50 centimes là, des listes informatiques, et notamment des maires qui avaient promis leur parrainage. Maires qui ont été contactés dans la foulée par quelqu'un qui s'est par des gens qui se présentaient comme des journalistes, faussement, et qui les menaçaient, qui faisaient pression. Bon, Louis Alliot, le secrétaire général du Front, a déclaré que dans les jours qui suivaient, les mêmes maires recevaient des sollicitations de l'équipe Villiers. Donc le Front accuse de Villiers, mais la police enquête.
Attendez, je suis obligé d'intervenir parce que Villiers, non, mais je suis là. Il y a une comment dirais-je, une concaténation de faits qui est, c'est bien aussi.
Ça. Et puis d'un seul coup,
qui est abusive. Parce que voilà exactement ce qui s'est passé. Voilà très exactement ce qui s'est passé. Un maire a reçu une lettre de monsieur Bompard lui disant, une lettre à en tête du MPF, le Mouvement pour la France, lui disant: cher ami, je vous adresse ici reproductions de la campagne d'affichage que fait le Front National. Mesurez la dérive de Le Pen, parce qu'il y a une antillaise
sur l'affiche.
Et pour Bompard, apparemment, pour le Front National, de dire que les Antillais sont français, c'est une espèce de dérive. Je ne sais pas comment il explique ça, mais enfin bon, il fait ce qu'il veut, d'ailleurs, c'est pas très important. Et dit-il, je ne comprends pas que vous puissiez donner votre parrainage à Le Pen. À partir de cette lettre, que le maire en question, qui était bien décidé à soutenir Le Pen, a envoyé au Front, certains au Front ont monté se sont monté le bourrichon en disant, ben voilà, c'est la preuve que le MPF a fait ça. Mais en réalité, on n'a aucune preuve. On n'a aucune preuve que c'est le MPF et que Villiers a fait ça. Ce que je sais, moi, c'est parce qu'on me l'a dit, c'est que, et quelqu'un qui me l'a dit, qui a de bonnes informations, c'est que Villiers a ses signatures, il en a 750, parce qu'il a raflé partout où il pouvait pour faire obstacle
à
Le Pen. Mais ça, c'est, je dirais, c'est une bonne guerre. Oui. C'est pas, il n'y a pas de manœuvre sur notre. En revanche, pardon. En revanche, le fait pour un quelqu'un qui travaille au Front, d'abord de mettre sur informatique les noms des maires qui ont accepté de signer, ça s'appelle, en bon français, fermer les oreilles des enfants, une connerie noirâtre. Faut vraiment être comme une valise sans poignet pour faire un truc comme ça. Ça sert à rien d'avoir ça sur listing. Bon. Donc le premier responsable, c'est quand même celui qui a fait faire ce listing informatique.
Et ce que personne ne conteste, c'est qu'il y a bel et bien une taupe au front. Or, rappelez-vous, Serge de Becquet, on avait titré, je crois, une taupe au front dans le Libre Journal imprimé il y a quelques années, au moment des régionales, quand la candidature de Jean-Marie Le Pen avait été barrée à Marseille par une taupe de sa garde rapprochée qui avait fait état auprès de la presse et plus précisément de Libération des problèmes soulevés au cours d'une réunion à Marseille qui portait sur le fait que Le Pen résida ou pas à Marseille. Ça avait été discuté, ce qui pouvait faire obstacle à sa candidature. Quelle était sa résidence? Est-ce qu'il avait un garage Et c'était dans Libération le lendemain. On avait parlé de taupe à l'époque.
Alors, oui, mais ça, on sait qui c'est.
Est-ce la même?
Il y a longtemps qu'on sait qui c'est. Il y a un type au front qui balance à Libé, mais on sait qui c'est. Je ne veux pas dire son nom, parce que ça n'arrange personne. Ouais, ou c'est un phoque, c'est comme vous voulez, c'est pas.
Ah, c'est une ménagerie alors.
Ouais, bah oui, non, mais. On aime les animaux au Front National.
pas une passion pour les phoques, quand même.
Le tari peut-être.
Lundi matin, Jean-Marie Le Pen en a fait la moitié de son intervention sur France Inter. Moi, j'ai d'abord été impressionné parce qu'il était là à 8 heures. Ça veut dire qu'à 78 ans,
il
se lève à 6 heures du matin et il est aussi combatif et lucide que jamais. Et il avait amené avec lui Lydia Chénardi, qui a fait
beaucoup plus lucide que jamais.
Oui, on en parlera peut-être tout à l'heure parce qu'on publie la totalité, l'intégralité.
Ah non, jamais, vous parlez de moi, je parlais de Claude Jamais.
Ah, vous pensiez au directeur de la rédaction de France Soir, mais il ne faut pas en dire du mal parce qu'il fait très belle une.
C'est mon ami.
Aujourd'hui, sur le front, dernière nouvelle du front, il appelle ça, c'est pas nouveau, mais c'est joli. On en dira un mot tout à l'heure puisque il cite les camarades Habiba, Abdallah, Farid et Abdallah qui expliquent pourquoi ils votent Le Pen comme on le prédit depuis longtemps dans cette émission. Un gros vote Le Pen dans les cités et parmi les immigrés.
Bon, donc de qui on dit du mal maintenant de... Ah tiens, on va dire du mal des pommes de terre. Ceux qui connaissent la réponse, vous pourriez vous taire, bien entendu, mais je vais lancer un concours auprès des auditeurs. Je vous offre 1 kilo de pommes de terre si vous me dites.
Voilà. Dangereux.
Non, c'est vrai. Non, le premier, quand même, d'exagérant. Non, mais ça devient dangereux maintenant. Justement, c'est ça le sens de la question.
Un abonnement au Libre Journal, Serge.
Non, mais
il faut être balèze pour trouver la réponse.
Un abonnement au Libre Journal, oui. Ouais, je sais pas, ma femme va m'égorger quand je vais rentrer.
Personne ne va trouver, vous êtes tranquille. Bon.
Quel est le taux d'augmentation du prix du kilo de pommes de terre depuis l'adoption de l'euro par rapport à le dernier prix en francs avant l'euro?
L'expert financier n'a pas le droit de participer.
Non,
c'est un concours entre les auditeurs.
Et en plus, je ne saurais pas donner la réponse.
Alors voilà, si vous me donnez le taux... Non, oui, c'est le taux, c'est ça.
Le
si
pourcentage,
on dit,
quoi.
Oui, pourcentage, ouais. Pourcentage d'augmentation du prix de pommes de terre depuis
2000, je crois.
2000, ouais.
L'apparition de l'euro.
Voilà.
Il faudrait peut-être donner la réponse au téléphoniste.
Non, parce que vous savez comment ils font, les gens, ils téléphonent une fois, on leur donne la vraie réponse, ils rappellent tout de suite et ils donnent. Je les connais, les auditeurs.
Non, pas pour qui. Non, pas pour qui.
On a 600 000 auditeurs, on a à peine 20 000 adhérents. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même 580 000 qui nous écoutent sans payeur. S'ils peuvent en plus se gagner
Il faut quand même pas nous prendre pour des patates.
Voilà.
C'était pas mal quand même comme idée, mais.
C'est une bonne idée. Voilà, c'est tout sur l'accueil. Puis, petit hommage à Henri Troyat, peut-être, qui a bercé notre enfance, notre jeunesse, notre adolescence.
J'en dis deux mots,
oui, dites-moi deux mots.
Je trouve le personnage émouvant parce que c'est l'intégration parfaite réussie de ce jeune homme chassé par la révolution russe. Et puis,
contrairement à certains Goffman que je connais.
Et qui aime la France et qui reste quand même russe, ce qui est normal, mais qui refuse toujours de retourner au pays parce que d'abord, il est français et puis il meurt, il est doyen de l'académie à laquelle il est rentré à 44 ans. Et puis, il a un peu redonné ses lettres de noblesse au prix Goncourt, puisqu'il a eu le prix Goncourt à 27 ans. Donc, c'était conforme à la volonté des Goncourt, alors que maintenant, on donne toujours le prix Goncourt à des gens qui sont relativement âgés. Donc, voilà. Et puis, c'était quelqu'un aussi il a beaucoup écrit. C'est peut-être pas un immense talent, mais c'est un grand écrivain.
C'est
pas non plus bouleversifiant, mais bon, et c'est surtout une œuvre importante et d'un tâcheron, et ça, c'est formidable. Et c'est aussi quelqu'un, on ne parle de lui qui avait traversé ses livres et pas d'autres choses. Je l'aimais bien.
Guy Descartes, par exemple.
Voilà.
Guy Descartes, c'était aussi quelqu'un qui a. Vous n'aimez pas Guy Descartes ou Goff?
Non, mais c'est.
Pourquoi vous n'aimez pas Descartes? Qu'est-ce qui vous a fait, Descartes?
Il écrivait très bien, Descartes. Puis c'est des gens qui, quoi qu'ils fassent, passaient 8 heures à la charrue pour écrire.
Il a écrit un livre que je trouve magnifique qui s'appelle La Brute. C'était invraisemblable d'écrire ça. À l'histoire d'un aveugle surmuet.
Oui, oui. Je connais le bouquin. Enfin voilà, c'est.
Vous l'avez lu ou non? Mais vous lisez pas, vous lisez quelques colonnes de
chiffres. Voilà, Guy Descartes.
Moi je crois que ce sont des écrivains quand même qui ont mis à disposition des livres pour un public qui n'était pas obligatoirement.
Ce sont des livres qui nous ont fait, quand on était gamin, nous ont fait aimer la lecture. Voilà, à partir de là, on a commencé à lire d'autres choses. Voilà, c'est très bien.
On aimait bien Henri Troyat.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'actualité? Vous avez relevé quelque chose?
Je prends des mal canard enchaîné parce que c'est formidable ce journal. Alors et c'est bien parce que il y a un encadré qui dit Sarkozy répond à Canal+. Est-ce que le canard enchaîné est utile? Hélas, oui. Et alors, on peut se demander pourquoi, puisque le Canard Enchaîné le persécute depuis quelques semaines au sujet de ristournes de 10 000 francs, de 20 000 francs, de 30 000 francs qu'il aura obtenu sur un appartement à Neuilly.
Ce qu'il faut, naturellement.
C'est probablement vrai, mais...
Je ne contente pas de ça.
Je suis sûr qu'il y a pas mal de nos auditeurs, sans parler des personnes présentes, qui ont obtenu des ristournes pareilles. Et moi, je me demande si le Canard Enchaîné n'est pas utile, aussi bien à Sarko qu'à Sego, quand il leur impute des crimes aussi véniels, parce qu'à mon avis, en cherchant bien, en creusant bien, on pourrait trouver pire. Mais juste à côté, le Canard Enchaîné, juste à côté de cet encadré que je viens de citer, le Canard Enchaîné de ce jour, sera encore plus utile quand il prétend révéler Le Pen au naturel. Et dire non, Le Pen n'a pas changé. Alors, on avait raconté aux canards comme aux autres que Le Pen avait changé, donc c'est qu'il avait adopté leur point de vue. C'était qu'il était devenu antiraciste, c'était qu'il était devenu partisan d'une immigration sans limite. Eh bien non, voilà que Le Pen, après donc son discours économique et social à Lille, redescend à l'autre bout de la France à Marseille pour parler de l'immigration. Quel mauvais goût déjà de parler d'immigration à Marseille pour ceux qui ont fait un tour récemment. On se demande pourquoi.
C'est comme hors sujet.
Et voilà donc le Canard Enchaîné qui cite son discours avec indignation. Il reproche à Sarko une véritable préférence étrangère. Donc ce monstre n'est pas devenu partisan de la préférence étrangère comme il le prétend. Et au sujet des clandestins, il dit que ce sont des délinquants et qu'il faut les renvoyer chez eux. Alors on me dit, citation de Le Pen, alors on me dit, mais monsieur Le Pen, si vous renvoyez chez eux les clandestins, avez-vous pensé à leurs enfants ? Bien sûr que j'y pense. Et ils ne doivent pas se séparer de leurs parents. C'est pour cela qu'ils partiront avec eux. Fin de citation. Délire dans la salle. Jean-Marie est d'un marrant. Voilà. Et le canard s'indigne parce que, voilà, Le Pen n'a pas encore adopté son point de vue.
Ça, c'est le truc, c'est imparable. Quoi que vous disiez sur un sujet que vous dites, non, non, il faut renvoyer les parents, garder les enfants. Vous dites, mais vous êtes un monstre. Vous êtes...
Et l'inverse, bon,
il faut renvoyer les parents et les enfants, vous êtes un monstre. Alors, de toute façon, ça, c'est exactement comme les gens qui vous disent, moi, je suis sioniste. Alors, comment vous voulez chasser les juifs de France? Ou vous êtes anti-sioniste? Comment vous voulez? Alors, vous êtes... Bon, on ne s'en sort jamais.
Vous êtes coincé de cette manière. C'est d'ailleurs en sens inverse qui arrive en matière de loi pour faire partir donc les criminels, c'est quand on est criminel en France, quand on a été condamné à 5 ans, moins de 5 ans de prison, on n'est pas expulsable. Hein, c'est à peu près, enfin, c'était la loi qui existait quand j'étais encore maire adjoint. Je ne sais pas si ça a bougé. Alors, moins de 5 ans dont on n'était pas expulsable et plus de 5 ans, c'était un juge qui... Si, on était expulsable, mais un juge décidait si le fait de séparer le type qui avait des enfants en France n'allait pas contre les intérêts de l'enfant. Donc,
c'est là qu'on dit,
voilà, il partait
Monsieur
jamais.
Le Président, vous ne pouvez pas chasser le France, cet homme qui a fait sa vie. Ça fait 5 ans qu'il vole en France, qu'il viole en France, qu'il tue en France.
Mais il a envoyé
voler, tuer et violer dans son pays où il risque la peine de mort.
Et puis chez nous, il a ses habitudes.
Chez nous, il a ses habitudes et tout. Puis son fils va à l'école. Et quand il vole quelque chose, il y a de l'argent derrière en France.
Oui,
chez lui,
ça reste dans l'économie.
Il est parti, c'est un réfugié économique. Il en avait marre d'attaquer et de voler des gens qui n'avaient rien dans les fouilles. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez avec votre François?
Je vous propose, Serge de Boucle, la revue de presse avec François, parce qu'on dirait qu'après 15 ou 20 ans de réflexion, peut-être sous l'influence de son nouveau directeur de la rédaction, Dominique Jamais, François s'avise de ce qu'il n'y a plus de place pour un journal, pour un quotidien de gauche, parce qu'ils sont tous de gauche. C'est Jean Dutour qui leur expliquait déjà il y a 10 ans. Alors on dirait qu'ils posent leur valise, parce que sans être complaisant, bon, disons que c'est honnête et propre, cette une. Regardez, un fond bleu ciel, je recommande à nos lecteurs qui peuvent encore se procurer François d'aujourd'hui, dépenser 90 centimes. Le Pen à la une, sur fond bleu
ciel. Belle photo, en plus.
Voilà,
il est souriant. Pour une fois, il n'est pas photographié en contre-plongée.
Ça s'appelle Dernière nouvelle du front. Et il y a quand même 6 pages. Hein. La une, les pages 8 à 11. Et page 12, il y a encore une photo de Le Pen au Salon de l'agriculture avec une belle casquette de gentleman farmer. Et alors, je ne vais pas vous lire les interviews de Farid Ismaï, d'Abdallah.
Non, mais Farid Ismaï, il est pour, hein.
Oui, tout à fait. De Habiba Boualem et de Mourad Asfour. Je vais simplement vous citer trois lignes de cette dame, d'ailleurs ravissante, Habiba Boualem. Courageuse, Habiba n'a pas caché ses idées, donc favorable au Front National. et je le paye au prix fort, dit-elle. Conseiller prud'homme au Conseil de Toulouse, elle est victime de discrimination pour ses idées. Je suis devenue la peste et le choléra. Qu'une femme d'origine maghrébine puisse voter Le Pen paraît inconcevable à ses humanistes. Elle ne précise pas quel humaniste, mais...
Il faut dire qu'elle porte le nom d'un grand monsieur qui s'appelait le Bachaga Boualem.
Ouais.
Donc,
ouais.
Est vrai,
oui, les Boualem, comme c'était... Les Boualem, c'est pas d'hier qu'ils sont quand même français. Hein.
Voilà. Ouais. C'est vice-président de l'Assemblée
mais
nationale.
Mais cela dit, je me demande si, connaissant le camarade Jamais, je me demande s'il n'y a pas un petit goût de vice là-dedans. Parce que, écoutez bien ce que je veux dire. Naturellement, je vais me faire plein d'amis, mais après tout, j'ai l'habitude.
N'avoue jamais.
Faites le bilan. Des militants, les vieux, les anciens militants du Front National, à qui on dit, regardez, tous les Arabes et tous les Africains votent pour Le Pen, et comparé au bilan des Africains et des Maghrébins qui vont voter pour Le Pen parce que Mme Boualem et M. Farid leur a dit de le faire. Ben à mon avis, en gain de voix, je ne suis pas certain que ce soit une réussite. Vous voyez, je crois qu'il y en a beaucoup plus qui vont foutre le camp que d'électeurs qui vont arriver.
Comme
c'est ça le danger.
Comme d'habitude, Sergi s'oppose à votre interprétation complotiste et mon interprétation économique des faits. Parce que moi, je mettrais ma main à couper que jamais il regarde les chiffres, il voit que François est dégringolé à 25 000, il regarde le paysage de la presse quotidienne nationale, PQN dans notre jargon, et il découvre que tous les quotidiens sont de gauche et que ça leur coûte très cher. Savez-vous que Le Monde, depuis sa nouvelle formule, il y a un an, a perdu 19% en diffusion. C'est quand même hallucinant. Et c'est quand même bien ces mensonges, et ces mensonges de gauche qui lui coûtent ça. Alors peut-être que Jamais a pris une calculette et qu'il s'est dit qu'il fallait un quotidien de droite, un petit quotidien à 25 000 exemplaires, pour des raisons économiques. Par ailleurs, il a été, Dominique Jamais, nommé directeur de la grande bibliothèque nationale par Mitterrand. Il a commis beaucoup d'autres crimes. Il est le fils d'un collabo. Je vois dans vos yeux que c'est ça qui vous...
Et les moins de 19%, c'est Bérou qui les a gagnés, non? C'est pas...
Oui. Non, mais moi, alors d'abord, sous réserve d'inventaire, parce que puis, si ça se trouve, demain, il va publier une avec Beauvais pour expliquer que... Voilà. Bon. On verra. Mais je sais qu'avec ce qui se passe en ce moment autour du front, entre les cathos qui disent nous on votera plus pour le front parce que Marine s'est prononcée pour l'avortement, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, elle s'est prononcée simplement, il faut dire les choses comme elles sont, pour l'instant l'application stricte de la loi Veil qui est effectivement, il faut bien le dire aussi, au départ une loi anti-avortement, c'était pour gérer quelque chose qui était ingérable. Bon, qu'après il y a eu des détournements de loi et tout, c'est l'évidence même, ça a été immédiat d'ailleurs, que Simone Veil a été surprise par cette dérive, ça j'en crois pas un mot, je crois qu'elle avait parfaitement calculé son coup, enfin il y avait une loi. Maintenant c'est absolument n'importe quoi, je m'étonne même qu'on puisse encore dire qu'on est contre l'avortement sans être poursuivi devant les tribunaux, ça va pas
venir.
Voilà. Alors ça, ensuite, je sais que dans le Landerneau de la droite nationale, les propos qu'a tenus à ce micro d'ailleurs Roger et Olyndre en disant il faut faire son affaire de l'immigration telle qu'elle existe aujourd'hui parce que vous ne les ferez pas partir, on ne les fera pas partir parce qu'ils sont devenus français de papier, mais ils sont français et qu'on ne peut pas, voilà, c'est tout. Ça provoque un cataclysme chez les militants. Et c'est vrai, les gens sont... Alors d'où la naissance de trucs qui sont probablement sarkozoïdes du style des nationaux contre Le Pen. J'aimerais bien savoir qui y a derrière, parce que ce truc traîne sur tout Internet. Et c'est extraordinaire, il n'y a pas une signature. On ne peut pas savoir qui fait ça, c'est impossible. C'est vraiment le principe de la lettre anonyme, où vous avez des gens qui se bardent de la dignité des nationaux atteints dans leurs œuvres les plus vives et dans leurs amitiés les plus chères. Alors disant, oui, Le Pen est un salaud, il a trahi, machin, truc, c'est dégonflé, il se couche devant la pensée unique et tout, mais les mecs qui écrivent ça, ils signent même pas leur truc.
Ouais, on peut même pas les féliciter.
Mais j'ai d'ailleurs alerté il y a quelques années sur deux ou trois sites comme ça qui sont très, très virulents, c'est le fait que beaucoup de naïfs ensuite leur écrivent pour dire on est d'accord avec vous et tout ça, et c'est le meilleur moyen de recenser, de faire des fichiers.
Évidemment.
Ah oui, c'est ça, je suis raciste, écrivez-nous.
Écrivez-nous.
Bien sûr. Voilà, c'est tout.
Oui.
Est-ce qu'il y a des réponses pour les pommes de terre?
Oui, il y en a quelques-unes.
Alors, dites-nous ça, qu'on rigole.
Le prix des pommes de terre...
Oui, mais il faut mettre la qualité. Hein.
La tonne de pommes de terre est 300 euros.
5 de 5 kilos.
Soit le double affiché un an plus tôt. Oh. Présent, 27 février 2007.
Je me marre.
C'est de la bourse de Bruxelles.
Je me marre.
Alors, je continue. En prix de gros, 35 euros la tonne en 2000 et aujourd'hui 290, soit 12%.
On n'est écouté que par des agriculteurs. Ils parlent en tonnes de pommes de terre. Moi, je parlais en sac d'un 5 kilos.
Au détail, 400%. C'est passé de 2 à 3. Au détail, elles 400%. Ont augmenté de 350%, nous dit Martine.
Colette.
Alors attention, en 2000, 0,23€. En 2007, 4,30€, soit 1769,99€.
Bravo.
Alors je note les références.
Vient d'une source très sérieuse, je vous donne.
Voilà. Alors l'abonnement est gagné.
Madame de Beketch.
Alors,
ça pour gagner le.
C'est Gilles de Plougastel.
C'est en Bretagne.
Gilles de Plougastel, un aristocrate en plus.
Oui,
Gilles de Plougastel d'Aoulas.
Bon, alors rappelez pour donner votre adresse complète pour qu'on vous abonne au journal comme promis.
Il doit connaître le cours des fraises aussi.
Ah oui. Bravo, monsieur.
Voilà, vous
avez... Et question en retour à monsieur de Beketch. Quel est le pourcentage d'augmentation d'un sachet de 20 grammes de chlorure de magnésium, sachant qu'il coûtait 50 centimes et désormais 1,50€, soit 9,84 francs. Quant à la Delbiase, elle ne coûte plus rien parce que plus commercialisée.
La quoi?
La Delbiase jolie.
Ah oui, absolument.
La cocaïne.
Non, c'était formidable ce truc. Oui.
Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant? D'ailleurs, c'est vous qui avez suscité cette information sur le fait que la pomme de terre, mais écoutez bien, chers auditeurs, a augmenté de 1769% depuis 2000, mais le gouvernement est en train de nous expliquer que les prix sont stables, que les Français qui se plaignent ne savent pas de quoi ils parlent. Alors, en effet, vous avez vu les quatre premières réponses, 13%, 2%, on est bien informé, c'est formidable comme on est bien informé. Et il faut un spécialiste, probablement Gilles de Plougastel, pour savoir que l'augmentation de la pomme de terre au détail est de 1769%.
Raison de plus pour écouter Radio Courtoisie.
Et vous avez quel âge, Goffman? Vous faites, rappelez-moi ça.
Je suis né en 49, chef. Je serais bientôt réformé, mis à la retraite d'office.
Et vous continuez à vous étonner d'avoir des dirigeants qui vous mentent?
Non, mais dans ces proportions-là, c'est hallucinant. Le gouvernement explique, ah oui, mais si on intègre le prix des ordinateurs qui a baissé, le prix des montres Cartier, des briquets de Nil, c'est stable. Mais les pommes de terre, les cigarettes à 5 euros, ça, c'est pas grave, il n'y a que des pétzouilles qui en achètent.
Voilà.
Est-ce que je peux vous lire les messages sur autre chose?
Oui, alors allez-y.
Alors, pour répondre à M. Goffman sur France des Cultures, M. Barre, pour une fois, a été courageux et a soutenu M. Papon et M. Gollnisch, sans doute dans un éclair de lucidité.
Oh, c'est trop ça.
On ne peut pas croire une chose.
Je m'étonne que le marquis, quand Serge a dit « Si je me trompe, vous m'arrêtez tout de suite », n'ait pas ajouté « Comme disait Nicolas Miguet ». Autre chose, aujourd'hui, Raymond Barre...
Nos lecteurs, on ne laisse plus rien. Nos lecteurs, nos auditeurs.
Le pire, c'est que j'ai rien compris, moi.
Vous m'arrêtez.
Vous me passez les menottes.
Ah, pardon. Je n'ai pas pensé.
Nicolas Miguet est en garde à vue.
Ça y est.
Ne répétez pas.
Aujourd'hui, Raymond Barre était l'invité des grosses têtes de Philippe Bouvard. Bon. Et dimanche, sur Radio J, Baruch, UPJF, a demandé la peau de Raymond Barre. Il a dit que Gollnisch a été maintes fois condamné.
Bon. Si Baruch ne veut plus de Barre, il reste Huche.
Alors, s'il vous plaît, monsieur de Beketch, ne parlez pas par ellipse.
Ah.
Car nous n'avons pas en tête la somme d'infos que vous. La même somme d'infos que vous. Et quelquefois, vous parlez, ça reste complètement et totalement incompréhensible à l'auditeur moyen.
Oui, mais je veux dire...
Mais néanmoins, abonné au Libre Journal je suis.
Bon, alors, pourtant, tout est dans le Libre Journal.
Toute mon argumentation fout le camp, parce que j'allais dire, il faut s'abonner au Libre Journal pour comprendre.
Et alors, une question précise. Peut-on nous expliquer une bonne fois ce qu'est l'arthrite latérale?
Non.
Oh là, non.
Je veux bien, l'arthrite latérale, c'est un truc qui a été fondé par Rockefeller pour...
Les grands du monde.
Oui, enfin, pour recruter des gens qui étaient supposés être des grands du monde et les faire rencontrer pour gérer,
organiser
l'avenir et gérer le mondialisme globalisé. Et la trilatérale, c'est les trois, comment dirais-je,
côtés du triangle.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, oui, absolument, les trois côtés du triangle. Vous avez bien raison, tiens.
Je dis ça au hasard, mais je suis nul en complot, moi.
Un abonnement.
L'Europe, l'Amérique et puis certains pays asiatiques, émergent. Si je ne m'abuse, émergents. Mais ça, il faut mieux poser la question, il sera plus clair que moi, il n'aura pas de mal d'ailleurs à Ratier.
Très bien.
Il a publié d'ailleurs dans ses...
Moncombe a publié un bouquin formidable.
Dans ses documents, il a publié la liste des participants de la dernière réunion.
Chaque année, oui, il le fait.
Donc achetez le fait et document de Ratier quand il vous reste de l'argent, ensuite vous abonnez au Libre Journal.
Une auditrice vous dit: je reviens de l'église où j'ai mis un cierge pour le repos de l'âme d'Henri Troyat et un autre pour le repos de l'âme d'un des derniers poilus de la guerre 14-18 qui est mort le même jour que notre académicien. Alors, chose politique, Monsieur Bayrou prend des voix à Jean-Marie Le Pen parce que ce dernier, tout en étant contre l'immigration, a des soutiens dans les cités d'immigrés. Et certains électeurs du Front, comme moi, ne voteront pas pour le Front, mais pour Bayrou.
Qu'est-ce que je disais?
Ouais, surtout Bayrou.
Il abonde dans votre sens.
Il est vachement anti-immigration. Il a raison. Il a tout compris.
Comment il s'appelle, ce petit garçon qui jetait à l'eau pour échapper à la pluie, là?
Gribouille.
Mon cher Gribouille, bienvenue au club.
N'oubliez pas, quand vous parlez des quotidiens, n'oubliez pas présent, s'il vous plaît.
On est là.
On vient d'en parler, là.
Il avait envoyé son message avant, sûrement. Concernant le canard et les avions et les avoirs de Ségolène Royal, Hollande, vous pouvez rappeler que tout, et même plus, était dans Faits et Documents à partir de l'été 2006.
Oui, c'est
une émission consacrée à la promotion de notre ami Ratier.
De la concurrence.
C'est comme le ravalement, la chirurgie esthétique de Ségolène Royal. Pour l'instant, c'est dans Faits et Documents, Le Libre Journal, Minute, Novopresse.info. Mais la grosse presse ne le reprend pas du tout. D'après Ratier, Présent ne l'a pas encore repris. Mais Présent a un goût très sûr. Et c'est vrai que cette histoire de chirurgie esthétique, c'est vraiment un peu limite.
Ouais. Et c'est moi qui vous ai envoyé une analyse d'un grand...
Oui, c'est vrai.
Qui nous écoute d'ailleurs à l'heure qu'il est et que je salue.
L'étude qui a été faite par un chirurgien plasticien qui disait... le temps qu'il faut. C'est-à-dire, il y a au moins 5 ans qu'elle a entrepris ça, puisque pour les cicatrisations, les consolidations et toutes ces choses-là, il faut 5 ans.
Et je salue son fils qui nous écoute depuis le porte-avions Charles de Gaulle.
Pas de nom, alors, surtout.
Non, mais pas en direct. Son père lui envoie des cassettes. Voilà.
Pour la loi Abbé Pierre, pourriez-vous nous dire si c'est la préférence étrangère qui va se mettre en place?
Alors, Marquis, parlez-nous de l'Abbé Pierre, en fait.
Écoute, je n'en croyais pas mes oreilles hier. Sur cette antenne, notre ami Foucard a parlé de l'Abbé Pierre des termes qui n'étaient pas très... mais qui étaient la vérité. Il a rappelé ses prises de position à la fin de la guerre, quand il était député, qu'il n'a pas voté l'amnistie pour les petits faits de collaboration qu'on voulait amnistier. Enfin bon, il a rappelé que ce n'était pas un type exemplaire. Et il y a une auditrice qui a téléphoné en disant: mais savez-vous que l'Abbé Pierre, Henri Grouès, est dans le bottin mondain? Ça m'a quand même fait sursauter, c'est quand même inouï. Alors je me suis précipité et j'ai pris la collection sur ces 15 dernières années. Effectivement, Henri Grouès dit l'Abbé Pierre, grand croix de la Légion d'honneur, machin, tralala, et président international d'Emmaüs, virgule, adresse, secrétariat, alors machin, Emmaüs, etc. Voilà, et pas d'enfant.
Alors il faut quand même préciser que pour être bottin mondain, il faut le demander, c'est comme la Légion d'honneur.
Un peu, oui. C'est-à-dire, si votre famille est depuis longtemps dans le bottin mondain, puis que vous êtes fils de cette famille, vous pouvez y être automatiquement, parce que,
sans empiéter sur les compétences du marquis, je vous donne un exemple, Serge, pour vous faire comprendre. Ariel Dombal n'y est pas, parce qu'il faut donner sa date de naissance.
Non, c'est pas vrai. Tu confonds avec le Wouzvou, ça n'a rien à voir. Ne mélangeons pas tout, c'est le même éditeur depuis quelques années, alors qu'il y a quelques années, c'était pas le même éditeur. Maintenant, c'est M. Hébrard qui édite les deux. Ce sont deux choses différentes. Le Wouzvou, c'est le Wouzvou qui décide de te mettre dedans et qui t'envoie un questionnaire que tu dois remplir. Alors tu dis ce que tu veux, mais enfin faut pas dire n'importe quoi non plus. Ça c'est une chose. Le bottin mondain, si tu es dedans en tant que fils d'un tel, le jour où un tel meurt, bah tu viens chef de famille automatiquement. Mais si tu veux entrer dans le bottin mondain, parce qu'il faut bien commencer un jour, tu fais la demande. Et c'est oui ou c'est non, et c'est gratuit. La seule chose qu'on demande aux gens, c'est que bout tous les 5 ans, c'est quand même de souscrire un exemplaire du truc.
Mais c'est ça qui est amusant. Donc vous dites qu'il y est depuis 15 ans au moins.
Voilà, ça veut dire que s'il n'avait pas payé le bottin mondain tous les 5 ans, il ne serait pas.
C'est ça. Donc,
il a les moyens.
C'est intéressant de savoir que quand vous filez de l'argent
à Emmaüs,
à Emmaüs, il y a une partie du fric qui sert à payer.
Et puis je trouve que sur un plan symbolique, l'abbé Pierre n'a rien à foutre dans le bottin mondain. Il y aurait toute sa famille, toute la famille Grouès, pourquoi pas. Mais il est le seul Grouès dans le bottin mondain. Donc je trouve ça curieux. Voilà. C'est un point de détail, si j'ose dire. Mais je trouve ça moche.
Je peux ajouter.
Qu'il soit dans le Wouzbou, oui. Dans le bottin mondain, non. Oui,
je peux ajouter sur Emmaüs France, 400 employés. C'est davantage que Heineken, la bière la plus vendue au monde. Heineken n'a pas 400 employés en France. Emmaüs les a. Et il ne les paye pas avec des cailloux.
C'est pas grave. Parce
donc c'est un business, la charité.
Mais l'abbé Pierre, c'est pas grave. Après, c'est tellement fait mousser. Maintenant, il est en bière. Donc,
on peut donner un chiffre qui touche un peu à ça. Mais les 50 plus grandes fondations européennes sont 10% plus riches que les 50 plus grandes fondations américaines. Mais elles distribuent 50% de moins que les fondations américaines, ce qui peut s'expliquer d'ailleurs par le niveau,
ça dépend à qui
le social aux États-Unis qui est moins sécurité sociale, et donc les fondations viennent beaucoup plus au secours des.
Ça dépend des gens à qui elles distribuent, parce que je crois me souvenir qu'il y avait un monsieur qui distribuait pas mal d'argent. C'était
non, il y a des fondations très bien d'ailleurs.
Le professeur.
Mais c'est un chiffre
de l'Arc.
Rosemarie.
La grosse Marie, oui.
La grosse Marie.
Professeur.
D'ailleurs, François Robot, tiens, voilà, puisqu'il est parmi nous, bien qu'il ne veuille pas prendre la parole tout de suite, il est là en observateur. Je me souviens très bien, le premier qui m'a parlé de ça, c'était lui. Il m'a dit, il y a un scandale qui se prépare à l'Arc, mon ami, et impossible de le faire exploser, personne ne veut en parler. Donc, pourquoi ?
Il était ligoté de tous les côtés, il avait ligoté tout le monde.
Il avait
la maçonnerie, tout le reste.
Bien sûr. On est 50 journalistes sur la muraille de Chine pour contre le sida.
Je l'ai bien connu, parce que j'avais ses comptes au Crédit du Nord.
Ah ben voilà, bravo, on doit alors. Franchement, au Crédit du Nord.
Ouais,
je peux pas dire du mal du Crédit du Nord, c'est la seule banque qui me tolère.
Et puis j'avais les comptes du front en même temps.
On n'a pas le droit de faire le délit de sale gueule, mais moi j'avoue, je n'étais au courant de rien, mais quand je voyais que Rosemarie à la télévision, avec sa rosette de l'Alliance d'honneur, comme un géranium, qui vendait sa salade, quelque part je me disais c'est pas possible. Et puis le jour où ça a explosé, je me dis bah oui, moi, mon instinct m'avait parlé. Il avait une gueule qui passait pas pour moi.
Beau voyou quand même. C'est-à-dire que comme ordure, on fait difficilement mieux.
C'est jusqu'au bout.
Vraiment, quelle crapule. Alors d'arriver à piquer
la concurrence pourtant.
Non, la concurrence est sévère.
La Cour des comptes nous en a parlé il y a quelques semaines.
Piquer l'argent des gens, des pauvres.
Des vieilles dames qui mangeaient que la moitié d'un beefsteak pour donner l'équivalent de l'autre moitié. C'est dégueulasse.
Moi, je l'aurais pendu.
Oui,
mais la moitié du beefsteak était remboursée par les impôts.
On rétablissait, c'est vrai. On rétablissait la peine. Oui, alors d'autres choses.
On parlera pas de la vie privée de Rosemarie non plus.
Bon, d'accord.
Mes deux derniers messages de cette main-là. Un maire d'une commune d'Ardèche m'a déclaré que Philippe de Villiers lui demandait son parrainage et lui a même envoyé un livre dédicacé. En ajoutant que s'il ne voulait pas le parrainer, il le donne à n'importe qui, mais pas à Le Pen.
Il y a un truc extraordinaire aujourd'hui, vous l'avez vu, il y a un maire qui a mis aux enchères
Bien ça. Et il est en train de montrer l'absurdité du système. Voilà, c'est très bien.
Il a raison. Moi, si j'étais maire, je le ferais aussi. Après tout, est bon.
Bon, on en est.
Il n'y a pas de loi pour empêcher ça entre nos 500 000 lois.
C'est tout ?
Mais vous avez fini ?
Victoria ?
Je trouve plutôt intéressant, même rassurant, que des jeunes des banlieues issus de l'immigration votent Jean-Marie Le Pen.
Bien sûr.
Cela signifie qu'ils ne sont pas tous manipulés ni manipulables.
Mais enfin, c'est surtout des vieux des banlieues qui expliquent que. C'est dans François Jordi qui explique que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, qu'eux, ils sont installés, ils se tiennent tranquilles et ils ne veulent pas voir arriver des gens qui n'ont pas été capables de s'intégrer dans leur lieu de naissance.
Quand vous pariez, Marquis, que la semaine prochaine, il me dit qu'il ne peut plus collaborer au Libre Journal parce qu'il était embauché à France Soir.
C'est étonnant, il fait un peu pub ce soir. Hein.
Il fait de la pub. Hein. Il fait un peu la pub.
Ouais.
C'est pour faire passer la promotion du Libre Journal.
Je suis en arrivée.
Je crois que le Front National a contacté plus de 10 000 maires pour récolter des signatures.
Non, je crois qu'ils ont contacté pratiquement tous les gens qui étaient susceptibles.
C'est le boulot que ça représente, c'est inouï.
C'est phénoménal.
Selon vous, un listing, c'est pas moi qui insiste, l'autre auditeur, comportant 10 000 pages, ne doit surtout pas être informatisé. En quoi est-ce une... C'est pas moi non plus.
C'est
connerie,
c'est...
connerie
non.
noire.
Non, j'ai pas dit. Je n'ai. Attendez. Alors, il faut écouter. Il faut écouter.
Il faut réfléchir.
J'ai dit qu'avaient été listés les maires qui avaient accepté de signer.
Et ça fait pas 10 000 pages, malheureusement.
Ça fait pas, hélas, 10 000 pages. Ça fait à peu près 400 noms. Et une liste de 400 noms, ça peut se tenir sur un carnet de poche. On n'est pas forcé de saisir sur un ordinateur qui est piquable par n'importe quel voyou stipendier.
Pour les paysans.
Autre mot à noter pour l'amélioration de votre vocabulaire, Marquis.
Je sais ce que ça veut dire.
Ah bon, d'accord, parce que tout à l'heure, j'ai dit un mot, vous avez regardé d'un air.
Celui-là, je ne le connaissais pas. Je me suis dit, il a fait une erreur, mais là, de stipendier, je suis.
Alors, laissez-la parler.
Pour le paysan, cela augmente de combien ses revenus, la hausse du prix de la pomme de terre?
Rien du tout.
Ça, rien. Ouais. Ça reste en germe, l'augmentation.
Ce matin, Jean-Marie Le Pen a été reçu sur Radio Classique. Ils étaient trois journalistes à le titiller. Oh. Et il faut rendre hommage à M. Le Pen pour sa grande vitalité et son équilibre physique et mental.
Mais sa grande patience, surtout.
Oui, moi, je crois que si je faisais comme lui, 1m90 et 100 kilos, je pense qu'il y aurait des baffes qui voleraient de temps en temps.
Il a quand même de la retenue.
Que pensez-vous? Oh bah tiens, non.
Non.
La commission de censure.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Anastasie a sorti ses ciseaux.
Alors, puisque le marquis
parle... Non, c'était à propos de bar.
C'est du direct.
Ben non, on en a déjà beaucoup parlé.
Voilà. Pour ça. Bon.
Puisque le marquis parle du bottin, où peut-on le trouver?
15 place de la Madeleine.
Très bien, merci.
Bravo. Réponse à tout.
C'est un bottin à pattes, ce type.
Il ne sait pas où il signe demain, mais c'est pas grave.
Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Michel Delierre?
Non, j'en ai pas.
Bah non.
Je voudrais bien, mais j'en ai aucune, donc je ne peux pas vous en donner plus que j'en ai.
Reviens, on t'a pardonné.
Est-il vrai que l'abbé Pierre aurait été objecteur de conscience?
Non.
Ben non,
il faisait de la résistance à Casablanca. Il était résistant à Casablanca.
C'est une boîte à la mode, ça, le Casablanca.
Ben écoutez, vous ne savez pas pour
bon,
le moment.
Allez, oui, ça va.
Alors maintenant, on va parler de choses sérieuses avec Christian Turpin.
C'est sérieux, le message d'auditeur?
Mais je pense bien, mais oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est désagréable, parce que je dis c'était très sérieux.
Voilà,
merci aux auditeurs qui participent à cette émission.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
On ne dit plus qu'ils collaborent, parce que c'est vraiment trop mal porté.
Une petite virgule technique, c'est-à-dire, je vous écoutais Radio Courtoisie, et puisqu'on vient d'en parler, le divin marquis, là, qu'on a beaucoup entendu, il signe son livre de souvenirs, ses mémoires, intitulé « Ceci est une autre histoire », demain, jeudi 8 mars, de 18 à 21h. Et où ça? Et où ça donc? Dans une mauvaise librairie, vous croyez peut-être, comme moi, comme vous?
Non.
Pas du tout.
À la commanderie
du Clos
Montmartre.
Rue
Norvins. Est-ce que vous allez revêtir vos décors?
À deux pas de la place du
Tertre. La cape de... Comment ça s'appelle?
De chevalier, de la commanderie. Non. C'est trop chaud.
C'est dommage, parce que ça vous va bien, hein. J'ai vu les photos.
Ah oui, justement, il ne faut pas que j'abuse.
Christian Turpin, les cinq destins de la France, application de la théorie de l'événementialité. Alors, il y a deux bouquins. Il y a un bouquin pour les gens courageux, les cinq destins de la France, qui concerne, qui se penche sur le destin à travers les siècles, en tout cas les années. Et puis, il y a un autre petit livre qui concerne les présidentielles 2007 vues par la théorie de l'événementialité. Donc je suis obligé, là, mon travail est grandement facilité, de vous demander qu'est-ce que c'est que la théorie de l'événementialité.
Bien, ben, effectivement, on ne peut pas parler des présidentielles 2007 d'une manière tout à fait classique à partir du moment où on n'explique pas ce que c'est que la théorie de l'événementialité. Comme vous avez dit, Monsieur de Beketsch, il y a un gros livre qui s'appelle « Les cinq destins de la France » avec un sous-titre « En 2007, le champ du signe de l'un d'eux », c'est-à-dire de l'un de ses destins. je vends tout de suite la mèche, c'est le chant du cygne de Chirac, c'est-à-dire en fait le chant du cygne gaulliste, et je vais même plus loin, c'est presque le chant du cygne de la République.
Bon. Que de bonnes nouvelles dans ce coup, nouvelles, hein, c'est vraiment...
Je ne m'en serai bien entendu à la fin, car la France est un pays très complexe, ce qui est le résultat de cette analyse. Or, ces cinq destins de la France, ce gros livre, a deux objets. Il a le premier objet, c'est d'expliquer une nouvelle méthode d'analyse.
Pardon, je vous interromps une seconde. Il ne faudrait pas se laisser impressionner par l'expression gros livre, parce qu'il fait quand même, il fait 320 pages.
Oui,
c'est
sûr.
Pas un c'est énorme densité, truc fatigant. Et tout. Non, il y a matière. Et il vaut 24 euros, je le précise tout de suite, parce que l'auditeur, quand on dit gros livre, il se dit, ça y est, ils vont essayer de me refourguer la Bible ou...
Bien, c'est un livre, effectivement, donc tout à fait classique comme forme. Mais son contenu est quand même assez dense et il a deux objets, deux objectifs, si vous voulez, ce livre. Premièrement, faire connaître cette nouvelle méthode d'analyse de l'histoire, car il ne faut pas confondre avec le mot événementialité qui est devenu récemment très employé dans le milieu journalistique pour parler de l'événementiel, c'est-à-dire tout ce qui arrive au quotidien. Ça n'a rien à voir, je vous expliquerai juste après en quoi consiste le mot, d'où vient le mot événementialité. Et deuxièmement, comme l'application de cette théorie, c'est la France, et particulièrement la France en 2007, bien entendu, il y a une opportunité, c'est de dire qu'est-ce qui va se passer au présidentiel. Et donc ça, c'est le deuxième objectif. Mais si l'on veut bien comprendre l'explication de ce qui va se passer, vu par cette théorie de l'événementialité en 2007, il est bien évidemment... obligatoire d'expliquer, je vais essayer le plus pédagogiquement possible d'expliquer cette théorie de l'événementialité. Je fais, juste avant de démarrer, un petit appel à nos auditrices et auditeurs, à peut-être le milieu universitaire, car je pense que moi-même n'étant pas universitaire, je suis issu des grandes écoles d'ingénieurs, cette théorie a été faite, comme on peut dire, en tour d'ivoire, en vase clos, entre moi-même et quelques petits amis qui me suivent, mais cela découle vraiment d'une étude qui devrait être reprise par le milieu universitaire. Et pourquoi pas, si le milieu universitaire ne suit pas, je pense qu'un centre de recherche, c'est pour vous dire que c'est très sérieux ce dont nous allons parler, c'est très rationnel, ça n'a rien, d'irrationnel ou de rêveur, nous n'allons pas parler des ovnis ou autre chose, mais il faudrait presque un centre de recherche donc se bâtisse sur cette théorie de l'avènementialité qui est, comme vous le verrez, très rationnelle et informatisable. Bien, et en plus, ce centre de recherche pourrait être très rentable, puisque à ma droite, j'ai quelqu'un qui sait très bien ce que c'est que l'argent et à quoi ça sert. Bien.
Oui, il n'est pas le seul, hein.
Il n'est pas le seul. Tout le monde est intéressé, oui. Tout le monde a besoin d'acheter des pommes de terre, si j'ai bien compris tout
mais
à l'heure.
Mais des montres de chez Cartier.
Ça, c'est Kaufmann, ça. Okay.
La théorie de l'événementialité est, juste avant de démarrer encore, en général, la théorie de l'événementialité correspond à une possibilité d'ajouter au côté sciences humaines de l'histoire une facette science exacte. L'événementialité procède de deux principes. Un premier principe qui est relativement connu par beaucoup, qui s'appelle la structuration temporelle de l'histoire en y appliquant des lois de cyclicité. Bon, c'est connu par tous ceux qui font de ce qu'on appelle la cyclologie. Bon, cela veut dire que le temps est structuré, et donc que l'histoire qui progresse au cours du temps, et là je vais parler, je précise, de l'histoire des nations, et non pas de notre propre petite histoire individuelle, quotidienne, l'histoire des nations, donc, est structurée dans le temps, et aurait, c'était ce que nous pouvions imaginer avant que l'on plonge dans une thèse scientifique et expérimentale qui a démontré la validité de ces structures temporelles, on pouvait penser, donc on disait, l'histoire se répète sans trop dire comment. Ça, c'est la première chose. Premier principe, l'histoire est structurée dans le temps. Deuxième principe, et cela, c'est la raison pour laquelle cette théorie s'appelle événementialité. Et c'est ce qui fait son originalité, qui est tout à fait nouveau dans toutes les recherches qui ont pu être faites et dans toutes les études sur l'histoire qui ont été faites. C'est que l'histoire va être étudiée uniquement à travers ces événements, ponctuellement, événements qui se réduisent tout simplement à une date. Événements, c'est quoi en fait? J'excuse. Les événements des nations, c'est quoi? Ce sont des guerres et des paix. Ce sont des naissances de nations, ce sont des morts de nations. Rien de plus. Et l'histoire, les historiens, depuis maintenant, on peut remonter presque à plus de 2000 ans, 2500 ans, d'une manière assez précise, ont répertorié tous ces événements en donnant la date d'un combat et le nom des combattants. Et nous nous en tenons là en événementialité, c'est-à-dire que nous ne cherchons pas à faire œuvre d'historien classique, comme on le fait actuellement, à savoir quelles sont les causes. Est-ce qu'il y avait, par exemple, Marie-Antoinette qui mangeait des croissants et ça entraînait la Révolution française. Donc, on n'essaye pas d'imaginer...
La brioche, plutôt.
La brioche, c'était des brioches, c'est vrai.
Croissance, c'était pas encore répandu.
Et donc, vous voyez, ce genre de détails n'intéresse pas l'événementialité. C'est quelque chose de très froid, finalement, au point de vue analyse, l'événementialité. Ce sont l'étude des résultats faits par tous les historiens, recensant tous les événements du monde.
Mais ça n'a rien à voir avec le matérialisme historique de Marx.
Non, absolument pas. Il n'y a aucun isme là-dedans. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est une pure analyse expérimentale au début, que je vais vous en parler. Et en plus, surtout, l'apport le plus important dans l'événementialité, c'est que cette étude, à partir des événements, a montré que les événements doivent être dissociés d'une manière quantique et binaire. Exemple, un événement que j'appellerais complexe, comme une guerre mondiale, si l'on veut l'étudier, doit obligatoirement être décomposé en événements simples qui correspondent à la dualité de deux opposants. Une guerre complexe, un événement complexe avec une guerre mondiale va faire intervenir, mettons, cinq pays. Ces cinq pays, il y en a deux ou trois qui vont être associés, alliés, puis les autres vont se battre, ces trois vont se battre contre les deux autres. Eh bien, il faut décomposer deux à deux les antagonismes et les alliances de ces pays. Et ce sont ces événements binaires, qui sont à la base de l'événementialité.
Mais bon, on comprend. Oui. Maintenant, c'est quand même un peu, c'est sujet à discussion, parce que si vous prenez le cas de l'Italie, par exemple, dans la Deuxième Guerre mondiale, qui est aux côtés des Allemands pendant un moment, contre le reste du monde, si j'ose dire, et puis avec le reste du monde contre les Allemands dans un deuxième temps, là, on est complètement en dehors de la théorie binaire. On est dans une...
Non, parce que vous avez eu, justement, une partie, je n'ai pas étudié l'Italie, et je n'en parlerai pas, mais... Quand vous avez, par exemple, au début d'une période, l'Italie avec l'Allemagne, vous allez avoir, mettons, une alliance, Italie-Allemagne. Mmh. Et puis ça fera un événement. Et plus tard, s'il y a Italie contre Allemagne, c'est un autre événement.
C'est un sous-événement dans les événements
qui constituent la guerre. C'est même pas un sous, ça se suit. C'est comme ça, c'est complètement détaché. Alors, je vais raconter un petit peu comment est née l'événementialité. Elle est née... Je vais raconter d'abord une histoire qui est dans ce livre, au début... C'est l'histoire de la grande Catherine de Russie. Je vais parler de la cyclicité d'abord. Ça va détendre un petit peu les cerveaux, parce que c'est plus simple à retenir. Catherine II était impératrice de Russie depuis 1762, et elle avait eu... elle s'était mariée à Pierre III, et Pierre III avait été d'ailleurs assassiné, et elle était devenue donc impératrice. Mais elle avait eu le temps d'avoir un fils avec Pierre III, Paul Ier, qui sera lui aussi donc empereur de Russie après la mort de Catherine II, tsar de Russie. Mais en fait, Paul Ier, en 1767, attend un enfant, c'est-à-dire le petit-fils de Catherine de Russie. Et tout le monde attend plus ou moins un héritier mâle. Pour assumer la continuité de la dynastie. Mais la grande Catherine, beaucoup plus que les autres. Pourquoi ? Parce que Catherine, la grande Catherine, était issue de la noblesse allemande, et comme toute la noblesse européenne de l'époque, elle était au courant de certaines théories, dont des théories de cyclicité de l'histoire. Et la cyclicité de l'histoire, qui était connue, saint Augustin déjà en parlait, il faisait remonter, il faisait comparer Rome, le destin de la Rome antique, à l'antique, encore plus antique, Assur, en Assyrie. Bon. Le modulo, j'appelle ça modulo, c'est-à-dire c'est la période de renouvellement de ce cycle, étant d'environ 2160, Platon disait 2149 ans. Bon. Pour des raisons arithmétiques pratiques, nous parlons de 2150, c'est très pratique pour les additions et les soustractions. Et donc, la grande Catherine et toute l'Europe attendaient le renouveau de l'épopée de la Macédoine avec Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui, à partir de -336, je fais une petite parenthèse, je suis obligé, comme M. de Beckett parlait tout à l'heure, de Doctus cum libro, je suis exactement ce type d'homme. J'ai manié des tas de dates, mais je suis incapable d'en retenir une seule. Donc vous me pardonnerez si je fais quelques erreurs, je suis toujours obligé de replonger même dans mes livres. Donc, Alexandre le Grand a conquis pratiquement le monde entier de l'époque, c'est-à-dire un monde méditerranéen, mais en allant jusqu'aux Indes, et a répandu, disons, la culture grecque, la culture hellène. Et son épopée est connue et restée connue dans toutes les mémoires. Et Alexandre le Grand a donc permis à l'époque, à la Macédoine, qui était une royauté qui d'un seul coup, avec Philippe II de Macédoine, son père, s'était implantée en Grèce, avait éliminé Athènes d'ailleurs, bon, est devenue une grande puissance de l'époque, la Macédoine. Or, tout le monde attendait, les temps étaient venus pour que un nouveau Alexandre le Grand arrive. Et la grande Catherine s'était dit, je vais essayer de forcer le destin. On ne sait pas où ça va arriver, cette nouvelle Macédoine, avec ce futur Alexandre le Grand. Alors donc, je vais appeler mon petit-fils Alexandre. Et la grande Catherine a imposé un nom qui n'était pas connu, qui n'était pas utilisé à l'époque, donc en Russie. La grande Catherine a imposé que son petit-fils s'appelle Alexandre. Ce sera effectivement Alexandre Ier, qui sera lui aussi tsar. Un peu plus tôt que prévu, puisque son père, Paul Ier, a lui aussi été assassiné un peu plus tôt que prévu, disons que le prévoyait ses cellules, enfin il n'était pas âgé.
Si vous me permettez, oui, cette incise, ça se passe dans un pays où la Macédoine s'appelle la salade russe.
En effet, vous voyez, le parallèle
ça va très loin.
Mais monsieur de Beckett, vous faites un peu, ça c'est du jeu de mots, mais c'est de la controverse, mais c'est aussi pourquoi pas du symbolisme, mais on en parlera peut-être si nous avons le temps. Là, alors bon, tout le monde connaît l'histoire. Alexandre Ier de Russie n'est pas devenu un clone d'Alexandre le Grand. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous le savez peut-être ou vous le devinez, celui que tout, enfin, certains sages savent, c'est Napoléon Ier qui a repris cet extraordinaire destin de conquête du monde de l'époque. Donc Napoléon Ier de son époque. Napoléon Ier, personne ne pouvait y penser. À l'époque, personne ne connaissait la Corse, à la cour de Russie. La Corse n'était pas connue. Personne ne pouvait imaginer, à la naissance en 1777, que la Corse allait être achetée par la France en 1768 et que Napoléon naîtrait en 1769. Bon. Donc, ceci explique dans la petite histoire que Alexandre Ier de Russie a toujours eu une dent personnelle contre Napoléon Bonaparte, et en plus contre Napoléon Ier.
Alors pour continuer dans le symbolisme, je vous fais remarquer que Napoléon, il y a toute une théorie sur Napoléon, fils symbolique d'Apollon, dont il portait le nom, et Alexandre de Macédoine était considéré comme le fils d'Apollon aussi.
Alors là, mon symbolisme ne va pas, à ce niveau-là, vous verrez le symbolisme dont je veux parler, c'est au niveau des événements. Là, vous parlez d'un symbolisme qui est utilisé effectivement dans les cyclologues. Pourquoi? Parce que cette théorie de reprise de l'histoire à 2150 ans près correspond à un phénomène physique qui s'appelle la précession des équinoxes et dont le rythme correspond en gros à 2160 ans. Bon. Et pour se repérer dans cette cyclologie, il y a des symboles et des mythes qui sont employés. Exemple, on dit que le christianisme, c'est le mythe des poissons. Avant les christianistes, il y a eu le mythe du bélier, avec ses religions du bélier, comme le judaïsme. Bon, donc là, ce dont vous venez de me parler correspond un petit peu à cela. Les mythes d'Apollon, les mythes solaires, correspondent un petit peu aussi à ce à quoi dépendait, par exemple, l'Allemagne nazie, et qui était un symbole solaire. J'en parle juste une petite parenthèse, parce que eux étaient au courant de ces cyclologies, mais avaient distordu, ils avaient été un peu trop loin au-delà de 2160 ans, et ils avaient cru qu'ils allaient, ils croyaient que c'était 700 multiplié par 3 égale 2100 ans. Et c'est comme ça qu'ils ont pu croire au renouveau du Saint-Empire romain germanique. Je ferme ma parenthèse.
L'orage de 1000 ans, alors, c'était une espèce de...
C'était une erreur de raisonnement
réduction. Ésotérique. Le prix, finalement, qu'on nous faisait sur un rage de 2000 ans, si j'ai bien suivi.
Oui. Bon, je ferme la parenthèse sur le Reich, parce que c'est vraiment pas l'objet ici. Oui. Et surtout, je ne voudrais pas...
Ne l'accablons pas, hein, comme on dit dans le film OSS 117. C'est toujours nous, les nazis, qui avons le mauvais rôle. Ça va durer longtemps.
Je voudrais dire surtout que ce n'est pas... l'événementialité ne traite pas, justement, de ces mythes. Elle va descendre. Alors, quelle est l'expérience fondatrice de l'événementialité? J'en suis à l'origine, et il y a maintenant 36-37 ans qu'elle a démarré. Je connaissais justement ces histoires de cyclologie. Je me suis dit, bon sang, c'est très intéressant tout ça, mais si on veut, car je suis ingénieur et aussi rationnel, j'ai dit, si on le veut, si on dit que les religions ont des cycles de renouvellement, donc les civilisations ont des cycles de renouvellement, etc., etc., cela veut dire que les civilisations où se trouvent intégrées des nations vont avoir aussi des renouvellements. Et effectivement, Tocqueville avait suggéré que les USA allaient reprendre le destin de Rome. Et il y en a d'autres qui le disaient. Et donc moi, j'ai retroussé mes manches et je me suis dit, je vais essayer de le démontrer, de le trouver, de me le prouver à moi, d'une manière concrète. En effet, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, ce sont des événements. Et donc, si je prends tous les événements de Rome et tous les événements des USA et que j'essaye de voir s'il y a une corrélation, eh bien, je serai convaincu de ce que me racontent les cyclologues. Alors, cette étude, je l'ai faite d'une manière scientifique, c'est-à-dire que j'ai fait ce qu'on appelle une analyse en aveugle, d'abord, pour ne pas faire correspondre n'importe quoi à n'importe quoi. J'avais quelques critères, un modulo, celui de Platon, bon, et puis je me suis dit, il faut que je fasse des petits sacs avec des nations. Rome a combattu les Étrusques, puis Rome a combattu les peuples du Latium, puis Rome a combattu, etc., etc. De la même manière, les États-Unis ont combattu, ben, pourquoi pas les Français d'Amérique à l'époque, ils ont combattu, il y a eu la guerre d'indépendance, ils ont combattu les Indiens, ils ont exterminé même, bon. Donc je vais faire des petits paquets avec ce que j'ai commencé à appeler des nations. Et puis en aveugle, j'ai compté combien chaque nation avait eu de combats. Chaque nation contre Rome, et puis d'un autre côté, chaque nation contre les États-Unis. Et après j'ai secoué tout ça et j'ai dit, bon ben je prends le paquet qui a le plus de gros événements et puis je le compare. Et j'ai comparé, j'ai constaté que... Alors là, il n'y avait pas de question de date, j'avais listé, j'avais fait des listes d'événements. C'était pas les listes du Front National et des maires, mais enfin c'était un listing quand même. C'était pas l'ordinateur à l'époque. Et donc, j'ai comparé et j'ai constaté que une analyse en aveugle me mettait en comparaison les Étrusques avec les Français d'Amérique. Me mettait, c'est-à-dire que le combat, et alors là, après toutes les dates, on collait, c'est extraordinaire. Donc il y a un livre qui a été édité seulement en 1994, qui s'appelle « Rome et les USA, théorie de l'événementialité », où c'est vraiment, là c'est ardu, je laboure, c'est une démonstration. Et donc on constate d'une manière étonnante, j'en étais vraiment époustouflé, une correspondance entre toutes ces sous-nations par rapport à Rome et ces sous-nations par rapport aux États-Unis, et de telle manière que j'ai retrouvé dans les tribus du Latium toutes les tribus indiennes, dans les peuples, on disait les peuples du Latium, sur ceux qui ont fait leurs études latines, bon, tous les peuples du Latium, on les retrouve dans les peuples, dans les tribus indiennes, avec les dates qui correspondent dans le modulo. Mon livre se termine par un calcul de probabilité, savoir combien de chances j'avais pour que tout ce qui avait été trouvé un peu au hasard, enfin pas au hasard, mais dans cette manière aveugle, avait de chance de coller au point de vue date, et aussi au point de vue logique. Parce que il faut que chaque combattant corresponde logiquement à un combattant 2150 ans plus tard par rapport à l'autre. Enfin bon, chaque combattant par rapport à l'autre, son opposant. Et c'est comme ça qu'est née l'événementialité, à tel point qu'avec cette thèse, j'ai pu bâtir des lois. Quasiment des lois, qu'il y en a une. La loi de l'événement complexe a été créée en 1975 à peu près, et se retrouve d'ailleurs traduite dans le livre Les cinq destins de la France, que vous pouvez trouver actuellement, donc qui est diffusé actuellement. Donc voilà comment est née l'événementialité.
Ce qui est étrange, c'est que ça me fait tout à fait penser à un bouquin que les amateurs de science-fiction connaissent certainement, qui s'appelle Fondation, d'Isaac Asimov. L'idée d'Asimov, c'est que l'histoire peut être mise en équation et qu'à partir du moment où on peut mettre l'histoire en équation, on peut jouer sur l'histoire en modifiant les termes de l'équation. Et alors il y a Fondation et Empire, Seconde Fondation. C'est un cycle qui est passionnant à lire d'ailleurs. Et il y a même une espèce de religion qui va naître, qui est une religion scientifique fondée sur l'étude de l'histoire et la manipulation de l'histoire. Et en somme, vous êtes un personnage d'Asimov.
Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour Isaac Asimov. J'ai été baigné un peu dans la lecture de ses romans. Alors, je ferai une nuance, c'est que on peut étudier l'histoire d'une manière mathématique. Par contre, c'est là qui a fait peur. La première personne qui a lu mon manuscrit sur Rome et les USA, c'est Salinger, l'ancien porte-parole de Kennedy, qui a été horrifié. Parce qu'il m'a dit, mais c'est John qui a écrit l'histoire. John n'était pas un pantin, parce qu'effectivement, quand on y regarde avec une grosse soupe, c'est-à-dire sans trop réfléchir, on comprend que c'est un énorme déterminisme. Mais ce déterminisme est au niveau des nations. C'est-à-dire, alors j'explique où est le déterminisme, où est le libre-arbitre. Il faut bien préciser.
On allait vous le demander.
Voilà.
C'est important.
Très important. Prenons un homme. Nous sommes tous nés un certain jour, et puis avant, peut-être qu'il y en a qui atteignent 108 ans, je ne sais plus combien il est mort.
Pourquoi vous regardez Rondeau en disant ça?
Il nous a parlé de l'anniversaire de la mort, enfin de ce monsieur du 14-18.
Il est sur la route des 108 ans, mais enfin voilà. il est à peine à moitié chemin.
C'est-à-dire que notre espérance de vie, disons en moyenne, c'est 85 ans en ce moment pour les hommes, un peu plus peut-être pour les dames. Bon, donc nous sommes programmés, nous sommes déterminés après être nés. Nous devons mourir, c'est les lois de la nature. Ça, et c'est tellement naturel que personne ne conteste.
Voilà. Si moi je conteste.
C'est pour ça qu'il met de l'argent de côté, parce qu'il espère acheter quelques années de plus. Mais
par contre, libre à vous de cette espérance de vie, de la risquer. Si vous êtes pilote de Formule 1, il y a peut-être plus de chances que si vous êtes fonctionnaire de mourir plutôt que prévu. Bon, inversement, celui qui va faire attention, il est végétarien, il est ceci, il est cela. Bon,
voilà. Ça lui paraît beaucoup plus long.
Il reste à foutre en l'air par l'autobus,
il va mourir en bonne santé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, même pour nous, premièrement, un déterminisme, qui sont les lois de la nature. Et deuxièmement, un libre arbitre, on fait ce que l'on veut de ce laps de temps, de cette vie.
On fait ce qu'on peut.
Ce qu'on peut, souvent. D'accord, merci de préciser. Bon. Eh bien, pour les nations, c'est pareil. Les nations répondent à des lois de l'univers. Et curieusement, bon, elles n'ont pas tous une durée de vie égale, contrairement, on peut en parler, elles sont totalement différentes comme durée de vie. Mais il y a ce que j'appelle, donc, il y aura des destins de nations, destins événementiels de nations, comme un jeu de cartes, qui est une sorte d'allégorie que j'ai fait avec un jeu de cartes, où on distribue des cartes, et puis vous avez devant vous un menu, c'est comme ça que vous allez jouer vos cartes. Ce menu, c'est un destin. Moi, je reprends dans le livre ce terme menu, c'est un peu plus simple que de dire destin événementiel d'une nation. Donc vous avez un menu, ça prépare peut-être monsieur...
Oui, mais il n'y a pas encore de restaurant gastronomique.
Bon. Donc ces menus sont prédéterminés, c'est comme une trame. Et cela veut dire aussi que les combats sont prévus. Alors ces combats peuvent être des combats durs ou des combats soft. Une pièce. Voilà. Ces combats donc... peuvent être des guerres, peuvent être des guerres militaires, peuvent être des guerres économiques, maintenant on en a vu, peuvent être des tas de choses, bon, des oppositions, mais quand j'ai dit, alors qu'est-ce qui est déterminé? C'est que le vainqueur est prévu, le vaincu est prévu. C'est intangible. Ce qui est intangible, c'est que ce sont des guerres. Les guerres sont dans les lois de la nature. Imaginer qu'on peut faire un monde sans guerre est absurde, est aberrant.
Ennuyeux.
Peut-être bien ennuyeux. Sauf si, sachant qu'ils vont arriver, ces guerres, l'homme qui sera au courant, et je pense que cette théorie est pour les futurs dirigeants, cette théorie permet aux dirigeants qui connaîtront, de dire ben, je vais m'arranger pour que ce conflit qui est inévitable avec tel pays, bon, on va s'arranger pour qu'il se passe le mieux possible. Et c'est tout l'art de la diplomatie.
Mais vous savez que c'est aussi l'art de la sorcellerie, ça.
J'avoue que je n'ai pas de balai, alors je ne sais pas.
Non, mais c'est sans blague. Les gens qui prétendent avoir la capacité de lire l'avenir disent, par exemple, voient dans l'avenir de quelqu'un, vous allez être blessé par le fer. Eh bien, ils vous disent, faites-vous une blessure vous-même par le fer, faites-vous une coupure avec une lame de rasoir ou piquez-vous avec une épingle et vous échappez. Donc le contrat est rempli, en quelque sorte, et vous échappez au coup de poignard mortel, simplement par une piqûre d'aiguille. C'est un peu ça.
On rejoint un symbolisme encore. J'ai peut-être parlé trop tôt de symbolisme, vous voyez, c'est très restreint, moi, la notion de symbolisme. Là, vous arrivez sur un symbolisme, disons, sur un autre plan, presque. Sincèrement, je ne vais même pas... Peut-être que vous avez raison, d'ailleurs, hein, mais j'avoue que...
J'ai eu raison, j'ai tout...
Sûrement, vous avez tout
raison. Il y a un principe dans cette émission,
c'est le chef.
J'ai raison, c'est le chef, quand même. C'est génial. Bon.
Donc, je ne discuterai pas.
Et ça fait 2150 ans que ça dure.
Voilà.
C'est pas prêt de s'arrêter.
Donc, le libre arbitre de l'homme, c'est justement... C'est pas un libre arbitre inconscient qui est de ne pas savoir de se cogner comme une mouche qui se cogne contre une vitre, c'est d'en connaître un peu plus. La science actuelle permet de connaître certaines choses. Ceci, à mon idée, permettra de connaître d'autres choses qui feront que la diplomatie peut monter d'un niveau et avoir des arguments pour s'arranger, pour que, etc., etc. C'est ça, le libre arbitre au niveau des nations. Voilà.
Alors, malheureusement, comme je vous l'avais dit, on a des impératifs d'horaire. Donc, je crois qu'on a compris le principe général. D'accord. Et puis je crois qu'il n'est pas nécessaire de développer le contenu du livre parce que les auditeurs qui s'intéressent à ces questions vont le lire et il est vraiment intéressant. En revanche, ce que j'aimerais, c'est que vous nous fassiez une démonstration de l'application immédiate de cette technique pour ce qui est de
la France.
L'échéance qui se profile maintenant.
C'est intéressant.
Bien, alors, très vite, et bien évident qu'après Rome et les USA, on étudie d'autres pays. La chose qui était immédiate, compréhensible immédiatement, c'est que puisque Napoléon a repris Alexandre le Grand, etc., on a vu que la Macédoine était reprise dans une trame historique identique par la République française. Bon, donc je vais être très rapide, hein, monsieur de Bekech. Philippe II de Macédoine a envahi la Grèce, pris Athènes. Il faut dire aussi, c'est démontré ici, que l'Athènes de Périclès a été repris par le siècle des Lumières de Louis XIV, et donc la France avait déjà pris une carte de destin. C'est donc un des cinq destins que je cite. J'ai commencé mes destins au moment des Bourbons, début des Bourbons avec Henri IV. Donc, mais avant, il y en a eu d'autres. Hein, bon. Donc cette carte de destin, c'était une carte de destin royaliste, le menu Bourbon, si on peut l'appeler comme ça. Le menu Bourbon nous a mené jusqu'à 1789. Bien. Ensuite, il y a eu la Révolution française, qui est une carte. Alors, les Bourbons, je les appelle les Athéniens. Sur le dessin, on voit Athéniens, parce que c'est la reprise d'Athènes. Ensuite, il y a eu les Macédoniens, la Macédoine, avec une alternance avec l'Empire, puisque ça n'a pas tout de suite été... Ça a été la Première République, mais après, ça a été le Premier Empire, puis après... puis après la Restauration, puis après la Seconde République, puis après le Second Empire, et enfin, la Troisième République. Donc, il y a eu une valse hésitation, et on a la même valse hésitation dans le passé, dans le monde égéen, monde grec, autour de la Macédoine, avec l'Épire, qui était associé carrément à la Macédoine, car Alexandre le Grand, sa mère, c'était Olympias, princesse d'Épire. Et il y a une thèse intéressante qu'on m'a demandé de faire, entre parenthèses, c'est qu'en fait, toute la notion d'empire, la carte, le menu empire, c'est un menu épirien, épire. Et comme Napoléon est né en Corse, l'idée est venue à certains de mes amis, mais est-ce que la Corse, etc. Et donc il y a un livre qui sortira, je ne sais pas, avant ou après le salon du livre, qui va s'appeler Le destin épirien de la nation corse, avec une projection vers un futur, la Corse. S'il y a des Corses en tant qu'auditeurs, vous pourrez être intéressés, vous viendrez au prochain salon du livre. Voilà. Donc, simplement pour dire que il y a cette carte, ce destin qui s'appelle épirien, qui correspond à l'Empire. Et puis, étant ingénieur, travaillant dans l'industrie, j'avais d'autres chats à fouetter que plonger là-dedans. Donc pour moi, c'était la Macédoine. Mais nous nous amusions, moi et mes amis, à prévoir certaines choses. Et il a été très facile de découvrir que, à un moment donné, j'arrive tout de suite à Pompidou, pour faire vite, le président Pompidou est mort et il correspondait à Persée en Macédoine. Et après Persée,
mort aussi, je suppose.
Il est déjà mort, complètement même. Et ce pauvre Persée était mort et éliminé à Pydna, bataille de Pydna, éliminé par Rome. Et vous rappelez-vous, entre parenthèses, sous Pompidou, il y avait une opposition avec les USA. Rome, USA. Bon, avec Jobert,
on peut appeler ça comme ça, on peut appeler ça les USA, oui, effectivement.
Et donc, après la chute de Persée, c'est Rome qui s'est installé en tant qu'administration dans la Macédoine. C'était pratiquement la fin de la dynastie macédonienne, presque. Donc, conclusion, après Pompidou, le gaullisme, il ne pouvait pas y avoir un gaulliste élu. Et je me suis amusé, il m'a dit, bon, ben, très bien, ce brave Chaban Delmas, il est là, il se présente, il est le premier à se présenter, mais il ne pourra pas être élu. Sans savoir comment. C'est-à-dire que l'événementialité ne sait pas comment ça va se passer. Curieusement, l'histoire, les événements, les mini-événements, les micro-événements, se débrouillent pour que les grands événements se passent comme prévu. La trame se passe comme prévu. Et c'est ainsi que le Canard enchaîné, que vous continuez à lire, a sorti une hérésie à l'époque. Ils ont attaqué Chaban Delmas sur son avoir fiscal, que personne n'a compris dans le brave peuple français, parce que personne ne savait ce que c'était que l'avoir fiscal, hormis ceux qui l'utilisaient. Bon. Et donc, Chaban Delmas a été descendu. Et c'est VGE, et je dis bien VGE, à l'américaine, pro-atlantiste à l'époque, qui est devenu président de la République. Donc voyez l'équivalent, en France d'un seul coup un pro-atlantiste, alors que 2150 ans plus tôt, c'était Rome qui s'intéressait à l'administration de la Macédoine. Bien. Plus tard, je continue sur les Macédoniens, plus tard, les Macédoniens en Macédoine, 20 ans après la mort de Persée, il y a un type qui se lève, il s'appelle Andriscos. Et il dit, je suis un fils, certes illégitime, mais un fils de Philippe V de Macédoine. Philippe V de Macédoine, c'était le père de Persée, juste avant. L'équivalent, c'est de Gaulle. Philippe V de Gaulle, Persée, Pompidou. Et d'un seul coup, 20 ans après, Andriscos, et là j'ai dit, attention, je l'ai prévenu, il y a mon agence de presse à l'époque qui a dit, il va y avoir, parmi les futurs candidats, quel est celui qui est le plus gaullien? C'est Chirac. Donc Chirac sera élu président en 1995.
Surtout, c'était un fils naturel de Pompidou. Enfin, un fils naturel. Voilà. Je ne peux pas dire fils spirituel parce qu'il ne m'a jamais fait rigoler, mais enfin, il était dans la lignée.
Et donc, Pompidou. Il y a un renouveau Andriscos-Chirac. Et là, c'est très intéressant. Le destin de Chirac est un exemple extraordinaire pour l'événementialité. Car Andriscos s'est fait descendre en un an et demi. Il s'est mis à dos, en reprenant l'autoritarisme de Philippe V, entre parenthèses, pensée de Gaulle, il s'est mis à dos tous les anciens de la Grèce autour. Bon. Il s'est mis à dos son peuple. Parce que d'un seul coup, on découvre que c'était un rigolo. Il les avait grugés, il n'était pas plus fils illégitime de Philippe V, entre parenthèses de Gaulle, que rien du tout. Bon. Il s'était décrédibilisé. Et puis, il a voulu faire la nique aux Romains. Les Romains l'ont éliminé. Paf, terminé. Un an et demi après, il n'y avait plus d'Andriscos.
Exactement comme Chirac.
Alors c'est là où moi je me suis trompé, entre parenthèses, vous allez voir pourquoi. Chirac arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il renouvelle les essais nucléaires. Exactement du gaullisme. Tollé général dans le monde. Et aussi en Europe, parce qu'il y avait des Européens qui avaient dit, on construit l'Europe, on n'a pas besoin de la force nucléaire. Deuxième chose, il s'était fait élire sur la fracture sociale. Et Juppé, qui est un matheux, un calculateur, avec juste raison, peu importe l'histoire, c'est Juppé qui devient un maillon de cette histoire, Juppé lui fait comprendre qu'il faut d'abord respecter les critères de Maastricht pour avoir les possibilités économiques de réduire la fracture sociale. On parlera de la fracture sociale après. Et il y a une fameuse émission télévision où Chirac explique tout benoîtement que la fracture sociale n'est pas son second plan, on va d'abord respecter les critères de Maastricht. Yeux étonnés de tous les Français qui disent « il nous a grugés ». Exactement pareil que pour Andriscos. Et sentant venir qu'il a dit une idiotie, Chirac, il lance les législatives et il se tire une balle dans le pied comme je ne sais plus quel journal américain, je ne le prononce pas sinon je devrais verser une pièce. Donc se tire une balle dans le pied. Un an et demi après, Jospin, qui ne s'y attendait pas, la gauche, qui ne s'y attendait pas, prend le pouvoir. Alors, là, je me suis dit, ça y est, Chirac exit. Bon, on ne l'exécute pas parce que les temps ont changé, mais il n'a plus qu'à roupiller pendant le reste de son septennat et c'est fini. Quelle n'est pas ma stupéfaction quand, en 2002, Le Pen arrive second et que, par une vague de patriotisme, entre guillemets, que je vous vois sourire, bon, tout le monde dit, on ne veut pas de Le Pen, on veut Chirac. Et Chirac se retrouve élu pour un nouveau septennat. Je dis, mais c'est faux, toute ma théorie est tombe. Qu'est-ce que c'est que ça? Normalement, Chirac ne devait pas revenir, il est fini. Andriscos est fini. Or, je m'étais trompé, j'avais même pas appliqué mes propres règles. Événement complexe. Il y a un conflit Andriscos-Rome qui n'avait pas été réalisé. Événement complexe en un an et demi. Andriscos s'était fait avoir avec trois types d'opposants, dont Rome. Et Chirac n'avait pas eu d'opposition avec les USA. Tout simplement parce que les USA, pour les essais nucléaires, ils faisaient leurs propres essais en souterrain. Et donc, il restait un conflit France-USA sous l'égide des gaullistes, c'est-à-dire de Chirac. Et on peut, là, c'est un point d'interrogation, on peut se poser la question, Monsieur Le Pen s'est retrouvé à aider l'élection, peut-être que Chirac aurait été élu, même si ça avait été Jospin, entre parenthèses. Enfin, c'est très curieux, on verra Le Pen d'après, avec le Front National. Et donc, simplement, Chirac a été amené contre son gré, d'ailleurs, parce qu'il aimait bien les Américains. Les Américains l'aimaient bien, il l'appelait The Bull, une pièce. Bon. Et donc, Chirac s'est trouvé amené à être contre les USA. Et il a perdu, puisqu'il n'a pas pu empêcher George W. Bush d'aller en Irak.
Alors, il vous reste 3 minutes pour nous dire.
Oh là là.
Si on a une chance.
Vous parlez presque tout seul depuis une demi-heure, monsieur, c'est pas mal. Hein.
Si on a une chance de.
3 heures.
Si on a une chance.
Le Front National.
De voir se réaliser.
On peut résumer.
Du Front National.
Alors, l'histoire a des lois, parfois elles s'appliquent et parfois non.
Alors, ce qui se passe, c'est que c'est après que j'ai constaté que la gauche correspondait pas aux Macédoniens. Curieusement, ils vont pas être contents, mais en fait, ils se sont intégrés aux valeurs de la République, mais la gauche n'est pas née en 1789, elle est née bien après, en fin du 19e, et s'est structurée en système de pouvoir au 20e siècle. Et nous avons cherché, j'ai cherché, et j'ai trouvé que, curieusement, il y avait un parallélisme étonnant avec la Bithynie. Donc la gauche, je les appelle les Bithyniens. C'est donc la gauche. Or, ce que là, l'événementialité peut dire avec assurance pour les élections, premièrement, c'est que Chirac, c'est fini. Si Chirac se présente, d'ailleurs c'est d'ailleurs éliminé, j'ai presque gagné, puisqu'il a été éliminé déjà avec De Villepin. Chirac ou son nom, on n'en parle plus. S'il se présente maintenant, tout le monde sait ce qui se passe. Ça veut dire que c'est la gauche qui passe là. Hein. Bon. Il ne peut plus être élu. Un gaulliste ne peut plus être élu. La gauche peut être élue. Pourquoi? Parce que les Bithyniens en ont encore pour 60 à 70 ans, en parallèle événementiel, de durée de vie. Ça ne veut pas dire que la France a regroupé finalement des pays qui étaient disparates, mais elle a regroupé sur son même territoire. C'est ça notre problème. Nous avons finalement un libre arbitre aussi au niveau vote. Car curieusement, la France n'est pas un pays avec un seul menu, elle a plusieurs menus qui se bagarrent. C'est pour ça qu'on est assez irréductible, c'est pour ça que parfois le ton est méchant, c'est pour ça qu'on entend des journalistes parler à M. Le Pen d'une manière haineuse et lamentable dans des interviews. C'est parce que c'est quasiment comme des guerres internationales, comme quand on appelait les Allemands les Boches et les Schleux. Vous voyez? Bon, M. Le Pen, c'est différent. Je découvre, et c'est là l'intérêt peut-être pour vous, que le Front National n'est pas un épiphénomène. On découvre que le Front National a un parallèle avec les Maccabées, dont l'histoire est racontée.
Merci beaucoup.
Les Maccabées Asmonéa, dont l'histoire est racontée par Flavius Joseph. Et il y a un parallèle extraordinaire entre la naissance du Front National avec le vieux Matatiali, et puis Front National et Mgr Lefebvre à l'époque. C'était 1970, Mgr Lefebvre qui créait Cône, le Front National créé en 1972. Et donc, il y a un parallèle entre Matatias et ses cinq fils, les Maccabées. Bon, les Maccabées, c'est un surnom qui a été donné à Judas Maccabée. Et donc, on constate aussi d'un seul coup une percée à l'équivalent de 2002. Vous faites le distinguo 2140 ans avec 2002 et vous trouvez une arrivée donc des Maccabées qui luttaient contre la Séleucie de la même manière que le Front National nationaliste lutte contre l'hégémonie allemande dans l'Europe.
Voilà, alors ce que...
Donc il a des chances. Vous avez 170 ans de futur.
Ce que je propose aux auditeurs, c'est de lire les présidentielles 2007 vues par la théorie de l'événementialité. C'est paru aux éditions MCOR Capsos. Ça vaut 9 euros. Et le bouquin de théorie s'appelle Les 5 destins de la France, aux mêmes éditions MCOR Capsos. Il vaut 24 euros. Et je leur conseille de le lire parce que c'est quand même assez intéressant. Mais il reste plus longtemps pour voir si ça marche ou si ça marche pas. Merci beaucoup.
Peut-être pas en 2007, mais en 2012, c'est sûr.
Merci, Monsieur Turpin, de nous avoir fait cet exposé.
Et voici la seconde partie du Libre Journal de Serge de Beketch, émission d'hier soir. Vous êtes sur Radio Courtoisie, il est 3h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria. Émission diffusée en direct mercredi 7 mars 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 8 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à contact@radiocourtoisie.com.
Alors François Robot, bonsoir.
Bonsoir Serge.
Alors François va intervenir pour la première fois dans cette émission. On a eu l'idée de
faire dire quelques mots de temps en temps sur une chronique gastronomique et de consommation. Gastronomique pour présenter un restaurant, pour présenter un commerçant, ou un bon boucher, un bon épicier, un bon...
Notre
petit Renault à nous, mais mieux.
Bah évidemment.
Forcément mieux.
Forcément.
Et puis consommation pour dire voilà ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est meilleur ou ce qui est moins mauvais. Alors là, j'ai vu que vous aviez fait un papier sur le salon de l'agriculture. C'est très à la mode là, cette grande
La plus grande ferme éphémère du monde où il faut aller faire son marché avec beaucoup de prudence parce que déjà à l'entrée du palais des expositions de la Porte de Versailles, on vous vend des billets à la sauvette comme à Roland-Garros, comme au Stade de France. La plupart sont imprimés. Donc quand vous passez les contrôles, vous risquez non seulement d'être refoulé, bien sûr, mais éventuellement, avec un peu de zèle, d'être poursuivi. Donc soyez prudent. Ça commence mal. Ça commence même très mal. Ensuite, une fois que vous êtes à l'intérieur, vous avez les animaux. Évidemment, ça fascine les enfants. Je rappelle quand même que pour les adultes, le prix d'entrée est à 12 euros. Donc on peut considérer que papa y va accompagner avec son épouse, qu'il y a le petit dernier, s'il a moins de 6 ans c'est gratuit, et on a accès dans le hall numéro 1 à des vaches absolument somptueuses. Avant elles avaient des prénoms de vedettes, maintenant ça a changé. La star incontestable et incontestée c'est Titine. Et si vous cherchez après Titine...
Il y a Cécilia aussi.
Ah, Cécilia, je ne l'ai pas vue là.
Oui, mais c'est la
elle vient la semaine prochaine, Cécilia.
Non, je n'ai pas vu Cécilia, mais Titine est beaucoup plus photographiée que les starlets qui descendent les marches du palais du Festival de Cannes. C'est absolument extraordinaire. Il y a des centaines de personnes. Alors, Titine est bichonnée, Titine est comment on dit...
Lustrée.
Lustrée, absolument. Elle est superbe. Alors, ce qui est intéressant, c'est le pavillon où se trouvent les exposants des 22 régions françaises, étant donné que l'Outre-mer, bien sûr, est compris dans ces régions. Et là, il y a les exposants. Alors, il y a les marchands du temps, comme d'habitude, qui achète du saucisson industriel pour vous le revendre, faisant croire qu'il a été fabriqué à la ferme. Et soyez vigilants, goûtez-le, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas avoir,
ne vous laissez pas
embonimer. Oui, saucissonner, il y a des bonimenteurs et des bonimenteuses, mais évidemment, il y a d'excellents produits de nos belles régions françaises. Ces produits, évidemment, ne sont pas bon marché, car le prix des stands, malheureusement là-bas, pour les exposants, ne cesse d'augmenter. Il y a même 1500 francs de location pour un compteur de 6 kilowatts. Je ne sais pas à quoi correspondent vraiment les kilowatts, mais ça coûte très cher. Donc il faut répercuter tous ces frais d'investissement.
Dans la choucroute,
la tartine, la choucroute et la royale, j'en ai vu une à 27,50 euros. Par contre, ce qui est très drôle, c'est que l'entrecôte. Alors, chez Ségolène Poitou-Charentes, qui annonce que c'est la région où on fait la différence, à défaut de faire de la cuisine-étude, elle est de 250 grammes, cette entrecôte, c'est du Charolais, là, la provenance est indiquée, elle est à, que je ne dise pas de bêtises, à 23 euros, hors boisson, bien sûr, et... au stand de l'Île-de-France, dans un bistrot qui s'appelle le Bistrot des Halles, c'est tout à fait logique, puisque les Halles étaient avant le ventre de Paris, elle pèse 350 grammes, là c'est déjà pour les appétits les plus solides, et elle est avec du cresson de Fontaine, de la région parisienne, bien sûr de l'Île-de-France, et des pommes parisiennes, qui sont des petites pommes, je crois que l'on... un peu genre pomme purée, vous qui êtes spécialiste, aidez-moi, volez à mon secours.
Eh ben c'est de la purée qui est, comment dirais-je, repassée dans la friture.
Voilà, c'est ça. Excellente réponse de mon confrère. Solide fourchette. Donc,
connu dans Paris.
Donc là, l'entrecôte est à 27,50 euros, hors boisson toujours. Donc, il y a plein de choses très agréables, très intéressantes, mais soyez très, très vigilants.
Il vaut mieux aller déjeuner chez Clément, qui est juste en face de l'entrée de...
Oui, Clément, ouais, qui vient d'être racheté, pour ceux que ça intéresse, par la Caisse des dépôts et consignations.
Ah bon ?
Voilà, les frères Blancs ont tout vendu.
Ils ont vendu à la Caisse des dépôts.
Ils ont tout vendu à la Caisse des dépôts, qui a racheté un prestigieux restaurant de poissons qui s'appelait La Marée, rue d'Aru. Près de la salle Playel. Ils ont racheté, donc maintenant c'est toujours le groupe des frères Blancs racheté donc par la Caisse des dépôts et consignations. Vous avez la maison du Danemark aux Champs-Élysées. Et je crois qu'il y a encore d'autres restaurants. En...
La Maison Blanche, c'est la Caisse des dépôts et consignations au-dessus du théâtre des Champs-Élysées.
De célèbre mémoire, puisqu'il y avait eu... il y avait une surélévation du toit de la Maison Blanche et il y a eu une bataille de ministres de la Culture qui se sont opposés et accordé un permis de construire.
La Maison Blanche, c'est un restaurant qui a commencé à la porte de Versailles. Bon, le type est mort, le nom est resté. Et on a
José Lampreya.
José Lampreya. Et on a surélevé, mais d'une façon qui ne se voit pas disgracieuse, le grand théâtre des Champs-Élysées pour en faire un restaurant qui s'appelle la Maison Blanche. Et le théâtre des Champs-Élysées appartenant à la Caisse des dépôts et consignations, on s'est étonné de que l'architecte qui a fait ce travail était l'épouse du président de la Caisse des dépôts et consignations à l'époque.
Voilà, donc j'aurais...
Mais la Caisse des dépôts et consignations... c'est un truc d'État.
Oui, c'est l'organisme qui gère l'argent public.
Dans la restauration,
si vous allez manger à la marée, ça sera forcément frais. Vous ne pouvez pas faire un procès à l'État.
C'est incroyable, ce truc.
C'est comme ça.
Bon, donc, alors, avec vigilance et beaucoup de prudence...
Mais ça vaut le coup quand même d'y aller.
Ah oui, je pense que c'est intéressant. C'est dommage que les prix soient aussi
exorbitants. La preuve que ça vaut le coup, c'est que tous les candidats à l'élection présidentielle...
il reste 1 500 000 agriculteurs en France.
J'allais le dire. C'est 2% de la population. Alors moi, ce que je crois...
S'il se remet autant pour...
C'est qu'il court plus après les voix des agriculteurs qui sont quasiment éteints, qui ont été exterminés. Il court après la masse écrasante de Français qui souffrent de nostalgie rurale.
Voilà, c'est ça.
Voilà, bon, ben, c'est un bon début, François.
Merci,
très
Serge.
Content. Je vous
merci
invite
à tous.
À revenir.
Je retire la choucroute royale, quand même, dans laquelle on pédale joyeusement.
Oui, et puis l'entrecôte au stand Poitou-Charentes, voilà, là, comme la loi l'impose, l'origine de la viande est indiquée. Par contre, au stand de l'Île-de-France au bistrot des Halles, l'origine de la viande n'est pas indiquée.
C'est de l'entrecôte du 16e arrondissement ou du 18e?
Non, il y a le cresson de Fontaine qui est, comme je vous l'ai dit, de notre belle région de l'Île-de-France et puis également les pommes parisiennes. Paris.
Merci François. On se revoit très bientôt. On parlera de un peu plus longuement. On fera quelque chose sur la consommation ou la consommitude. Je sais pas comment
c'est bien la consommitude.
Nous serons dans la consommitude.
Donc je suis obligé de vous demander de libérer le siège pour notre invité.
Pendant que les chaises jouent de la musique, c'est la minute de promotion du Libre Journal. D'accord, Serge.
Parce que, on a fait de la promotion que pour Ratier ce soir, pour François.
Nous, on est discret. On prend une minute ou deux pour ce. Le numéro 401, c'est pas mal quand même. Hein. On attend le champagne, Serge. Hein. On pensait que vous alliez débouler à l'imprimerie.
J'y ai pensé tout
avec du champagne. Je peux vous demander, messieurs, d'observer le silence dans un studio de radio sans être trop autoritariste ou prussien comme
ça. C'est pas un salon de coiffure.
Stalino-prussien.
Voilà, donc nous sommes, n'en déplaise à nos ingrats invités, nous sommes au numéro 401 du Libre Journal imprimé. Et ce numéro se recommande d'abord par la publication intégrale du discours de Jean-Marie Le Pen à Lille. Alors, bon, comme d'habitude, on va avoir des messages. Voilà, vous êtes un féodé, et également des messages, vous êtes des traîtres. Mais, bien entendu, nous publions ce discours, non pas que nous ayons le moindre intérêt ou la moindre inféodation, mais parce que nous avons pris connaissance de ce discours. Je peux dire même que vous m'avez envoyé, Serge, à Lille, comme envoyé spécial, et que j'ai entendu ce discours de mes propres oreilles, et il est absolument remarquable. C'est un discours visionnaire, c'est un discours puissant. Jean-Marie Le Pen ne craint pas de se réapproprier, de même qu'il explique à Valmy qu'il se réappropriait.
C'est un discours de Maccabée, c'est pas un discours de mort.
Non, vraiment pas. De même qu'il a dit à Valmy qu'il se réappropriait l'histoire de France dans sa totalité, les 43 qui ont fait la France aussi bien que la République, il s'est réapproprié la lutte des classes, qu'il a pratiquement appelée par son nom, en termes extrêmement vigoureux, attirant les acclamations de tous les ouvriers lillois qui étaient présents dans la salle. Et ce discours était vraiment remarquable. Je dois dire d'ailleurs que
Seul le Libre Journal l'a publié intégralement.
Ouais, je n'osais pas le dire. Il me semble bien. Et il me semble que seul le Libre Journal a envoyé un journaliste sur place. Alors bon, on a eu le malheur d'oublier un article de présent au sujet de l'abbé Pierre dans une lettre de lecteur. Présent nous l'a reproché vivement. Alors, excusez-nous si nos amis présents nous écoutent, qu'ils ont envoyé un journaliste, je ne l'ai pas rencontré sur place. J'ai lu toute la presse patriotique. Ensuite, il n'y avait pas de journaliste, d'autres confrères. Donc,
de toute façon, il n'y a que dans le livre journal qu'on peut lire l'intégrale du discours sur un aussi beau papier.
Déjà, voilà. Le support est formidable.
Voilà, donc intégrale du discours de Lille. Alors avouons, soyons modestes, que vous avez été trop rapia pour m'envoyer à Marseille après, et donc j'ai rien à dire du discours de l'Open sur l'immigration.
Je suis pour lui, chef.
Mais enfin, je suis allé à Lille en première, merci chef. Et j'en suis revenu donc avec un reportage qui complète agréablement le discours de Jean-Marie Le Pen. Dans ce journal, il y a également une double page de François Brignot, dont je tiens, alors je cite toujours machinalement, tout simplement, parce que bon, c'est un peu notre vedette, c'est un monument historique de la presse patriotique, mais il s'est, à mes yeux, encore surpassé dans ce numéro. C'est vraiment... Écoutez, c'est simple, moi je vous vends ce journal, 5 € uniquement pour l'article de François Brignot, et je rembourse les mécontents de ma poche. C'est simple, je ne peux pas dire mieux. Si vous n'êtes pas content...
Qu'il soit de bonne foi quand même. Hein.
Ouais. Naturellement, qui m'avance un ou deux arguments, qui m'avance un seul argument contre cet article, qui est absolument remarquable. Je ne les rembourse pas, je leur rends 10 € contre 5.
Il faut donner le titre quand même.
Voilà. Le titre, c'est « Sondage et trucage, les deux mamelles du suffrage ». Et ça continue sur le même ton, sur une double page. En dehors de Brignot, on a notre correspondant à New Delhi, qui n'est pas du tout à New Delhi, mais qui est à Bali. Alors là, c'est les amateurs d'architecture marine. Je pense pas être le seul. Moi, j'ai adoré encore cet article. Il nous explique l'histoire des bateaux-poissons à Bali, son évolution récente sous l'influence de l'architecture marine française, occidentale. C'est tout à fait remarquable. Le marquis, lui aussi, revient d'Asie, puisque cette fois, il nous promène sur une double page.
Ouais, j'étais gêné que le marquis soit en Asie. je le préfère en marquis.
Voilà. Voilà. Il nous promène également sur une double page de la baie d'Along à Hong Kong. Là aussi, ça rime. Et c'est très amusant parce que c'est non seulement la chronique de Hong Kong, la description de la baie d'Along, mais la description très très précise et très cruelle de la faune des croisières.
C'est vraiment... Je veux lire un passage. Juste un petit passage. Voilà. Évidemment, donc c'est l'histoire d'un type qui arrive très élégant à table. Ce matin, je me rends à la salle à manger. Un couple vient s'installer à la table voisine. Monsieur, cheveux de neige, lunettes fines cerclées d'or, porte beau, pantalon de toile et très élégant, polo Ralph Lauren, bleu lavande. Madame, ondulé, reflet bleu, œil de rapace, lèvres carminées, celle qui décore les tasses de Légion d'honneur, vêtue de mousseline Litvin. Dégustant l'ananas frais, monsieur fait une tache de la tête d'une tête d'épingle sur le beau polo bleu. Vite de l'eau chaude, lance madame en un long mugissement. Monsieur essuie les yeux au sel avec sa serviette. Arrête, tu étales. Un serveur arrive et verse de l'eau chaude dans la théière. On lui a demandé avec vigueur de l'eau chaude. Étonné, il ne comprend pas pourquoi la furie européenne n'a pas le matin calme. Madame s'apaise et à l'aide d'une serviette chaudement mouillée, entreprend de frotter vigoureusement monsieur. Il se retrouve avec le plastron totalement humide. Arrive alors sa commande. Deux magnifiques œufs au plat avec bacon. Évidemment, vous devinez la suite. L'œil gourmand, il attaque ses œufs à la deuxième bouchée. Un abondant filet de jaune vient s'étaler sur le beau polo bleu. Madame s'étrangle. Le peut-être médecin, PDG ou haut fonctionnaire s'entend dire que vraiment il est insortable, inattentif, un goré, quoi. Monsieur boit une gorgée de café sans en renverser, se lève, se penche vers madame et mezzo voce. Hélène, tu me fais chier avec ta croisière de merde. Monsieur, avec dignité, se retire. Au déjeuner, il n'était pas à la même table.
Voilà. C'est la journée de la femme, pas plus tard que demain. Je pense que c'est une façon comme une autre.
Il y en a deux pages pour ça.
De préparer cet événement. Alors pour en finir, parce qu'il faut quand même en finir, je suis obligé de citer Serge de Beketch, bien que ce soit le patron, parce que il a laissé la page de l'éditorial pour le discours de Jean-Marie Le Pen, mais en page 22, il fait le point sur, comment dirais-je, certains événements à Radio Courtoisie. Je n'en dis pas plus, nous n'en parlons pas sur l'antenne, mais Serge de Beketch procède à un certain nombre de révélations, de mises au point dans ce numéro 401.
C'est clarté surtout.
Oui. Excellent.
Du Libre Journal.
Merci, c'est gentil.
Numéro 401, donc que les gens intelligents, qui ont déjà le crayon et le papier à la main, vont se procurer contre 5 euros. ou un carnet de timbres, de préférence un carnet de timbres, d'abord parce que c'est vraiment trop de boulot de traiter les chèques de 5 euros par paquet, par botte de 12, et surtout parce que Daniel de Bekech a besoin de timbres pour procéder aux relances des abonnés qui oublient parfois, bien que nous ayons le meilleur taux de réabonnement de toute la presse mondiale. Oui, monsieur, c'est comme ça, je ne l'invente pas. C'est un spécialiste de la diffusion presse qui l'a dit à Serge de Bekech après avoir examiné nos comptes de prêt, qui parfois, disais-je, oublie de se réabonner avant d'être relancé. Donc, un carnet de timbres de préférence, 5 euros à la rigueur pour ce numéro 401. Pour s'abonner, un an, 3 numéros, c'est un décadaire, 3 numéros par an, 24 pages.
Par an, non, par mois.
Par mois, 24 pages. Presque entièrement rédactionnel, en tout cas la publicité ne nous est pas payée, c'est 110 euros à l'ordre de SDB, 4 place France List, 75-010 Paris. J'ajoute seulement,
rien ne note pas.
Pour les rapias, qui sont quand même toujours la majorité, qu'on peut feuilleter sur Internet notre sommaire sur des années, sur un site créé par des amis du Libre Journal qui s'appelle France Courtoise. Point info. J'ajoute enfin que ceux qui n'en ont pas assez avec le ramage du divin marquis et qui veulent voir son plumage, ils se rendent à Montmartre, noté Victoria.
Oui, oui, parce qu'on me le redemande.
Ce doux rendez-vous.
Allons-y.
C'est donc demain, jeudi 8 mars, de 18 à 21h. À la mauvaise librairie, pas du tout, même pas à la librairie du Petit Pont, à la commanderie du Clos Montmartre, rue Nourins,
Norvin,
métro, rappelez-moi,
il n'y a pas de métro,
y a pas de métro sur la butte, bravo, donc débrouillez-vous.
Il fut un temps où il y avait même un funiculaire.
Il n'y en a plus non plus, oui. Il faut prendre le bus jusqu'à Place du Tertre.
Bon, quand vous aurez fini,
rue Nourins,
je dirai l'adresse lentement pour
Norvin,
que je puisse écrire.
Tout.
Rue Norvin, N-O-R.
J'en suis à commanderie du.
Du Clos Montmartre.
Clos
Montmartre. C'est pas mal le truc pour répéter 27
ensuite,
fois.
Voilà.
Non mais c'est, il faut qu'elle note la
ensuite,
dame pour que les auditeurs qui vont téléphoner, comment vous dites, on n'a pas compris, elle
rue
puisse
Norvin.
C'est pour demain le secrétariat. Bon,
jeudi 8 mars, à deux pas de la place du Tertre. Donc,
voilà.
De quoi parlions-nous?
Le divin marquis. Redites-moi la date, l'adresse.
Rue Norvin.
C'est pas possible. Il faut abréger ses souffrances, Serge. Prenez votre barre de fer dans
et
votre
après,
cartable.
À deux pas de la place du
on rêve.
Voilà.
Bon,
allez,
voilà.
Assez.
De quoi
merci,
parlons-nous
suffis, merci.
Le marquis signe son livre.
Vous ne voulez pas parler
alors, prenez un micro, mon garçon.
Voilà, il est là. En quelques minutes, Henri Dubos, je vous ai demandé de venir pour faire un point sur un sujet qui avait beaucoup intéressé la première fois quand vous en avez parlé, ce sont les acouphènes.
Oui, voilà.
Les acouphènes, en deux mots, de quoi s'agit-il? Je vous laisse l'expliquer.
Alors d'abord, merci de m'avoir réinvité, puisque je suis venu, c'était le 8 mars, donc quasiment un anniversaire. On peut sortir la bouteille de champagne, si vous voulez.
Vous ne l'avez pas apporté.
Non, malheureusement. Mais... et donc, les acouphènes n'ont pas changé de définition et ce sont toujours c'est toujours un symptôme qui, effectivement, pose problème à un certain nombre de personnes. On compte à peu près 4% de la population qui a des acouphènes, dont 300 000 personnes qui en souffrent de manière particulièrement aiguë.
Alors, il s'agit de quoi?
Alors oui, effectivement, il s'agit de quoi? Acouphène. Je précise le mot latin qui peut peut-être davantage parler à nos auditeurs, c'est le mot tinnitus, qui veut dire tintement. Le mot acouphène est une racine un peu plus compliquée, c'est acoustique phénomène, c'est un mot relativement récent, enfin du 19e à peu près, alors que le mot tinnitus est connu depuis belle lurette. Si vous regardez les auteurs latins, il y a déjà des références au tinnitus. Il s'agit de tintement, si on prend la définition du mot acouphène, savoir tinnitus donc, c'est-à-dire de bruit dans les oreilles qui sont en général des sifflements, mais qui peuvent être également des bourdonnements et
des tintements,
etc. Bon, il y a toute une kyrielle de qualificatifs pour définir ces bruits qui sont en tout cas, quoi qu'il en soit, des bruits parasites.
Alors, c'est quelque chose d'extraordinairement désagréable et douloureux, même alors, psychologiquement douloureux.
Oui, quand je disais qu'il y a 4% de Français qui ont des acouphènes, je dis bien qu'ils ont des acouphènes et non pas qu'ils souffrent d'acouphènes. Et la différence est essentielle.
Et qui en souffre, c'est quel problème?
Bah, on compte à peu près 300 000 personnes 300 000. En France. Mais il s'agit d'un stock, si j'ose dire, tournant. Il ne s'agit pas de personnes qui ont une fois pour toutes ces qualificatifs d'acouphénique sévère.
C'est-à-dire que ça peut se...
Il y a des entrants et il y a des sortants. Et quand je dis sortants,
il y a des gens qui n'ont plus d'acouphène.
Alors, il s'agit toujours d'une guérison paradoxale ou en général, presque toujours en tout cas, d'une guérison paradoxale. Au sens
qu'est-ce que vous entendez
par guérison paradoxale, on entend toujours par guérison le fait de ne plus ressentir le symptôme. Ah, oui. Or là, ce n'est pas le cas. Bon, quand vous guérissez, je ne sais pas, d'une crise de foie ou d'une crise d'appendicite, c'est qu'effectivement, le problème est totalement résolu, vous ne souffrez plus. Là, le problème est différent dans la mesure où les guérisons sont toujours, effectivement, je répète le terme paradoxal, dans la mesure où vous continuez à avoir ces acouphènes. Mais
vous en foutez.
Voilà, c'est exactement. C'est plus, en effet, le problème majeur qui bousille votre vie et qui vous bouffe entièrement vos jours et vos nuits.
Quels sont les modes thérapeutiques?
Alors, les modes thérapeutiques, malheureusement, je ne peux pas vous dire que l'acouphène est curable d'une manière certaine. Je peux simplement vous donner quelques indications thérapeutiques, quelques cheminements thérapeutiques, chacun d'ailleurs faisant un petit peu son marché dans l'histoire. C'est-à-dire que beaucoup de thérapies sont, comme on dit un petit peu de manière un petit peu pompeuse, opérateurs dépendants. C'est-à-dire que, je pense en particulier aux thérapies comportementales, à la sophrologie, à l'homéopathie, à l'ostéopathie, etc. Bon, toutes ces thérapies ont leur intérêt, bien sûr, propre, mais...
L'acupuncture.
L'acupuncture aussi, oui, bien sûr. Il y en a des tas, bien sûr. Mais, encore une fois, elles dépendent de l'opérateur. C'est-à-dire qu'il y a une très grande diversité d'appréciation selon le thérapeute que vous avez en face de vous et selon votre personnalité. Quelquefois, ça peut très bien marcher. Vous pouvez effectivement recevoir une aide thérapeutique pour une thérapie donnée. Et puis, quelquefois, bon, le même thérapeute peut faire chou blanc, si j'ose dire, par rapport à une autre personne.
Est-ce qu'il existe une association pour beaucoup de maladies rares ou pas rares d'ailleurs, qui regroupent les patients ou les...
Oui, alors il existe une association dont j'ai partagé un petit peu le destin il y a quelques années. Je m'en suis éloigné pour des raisons, parce qu'il faut laisser la place aux jeunes, n'est-ce pas? Il s'agit de l'association France Acouphène. Et cette association a été créée en 92, donc il y a à peu près une quinzaine d'années, à l'initiative de très peu de personnes, peut-être 5 personnes. On se sent dit un jour, ça ne peut plus durer comme ça, il faut qu'on fasse une association. Et puisque vous m'offrez un micro, je me permets de saluer l'action du fondateur Maurice Demiaz.
Est-ce qu'il y a la perspective d'une solution thérapeutique sérieuse ou est-ce que c'est pas du tout...
Objectivement, je dirais non. Il n'y a pas de perspective de thérapie, si vous entendez par thérapie le fait d'éradiquer purement et simplement le symptôme. En revanche, je répète que l'acouphène est un symptôme qui peut être perçu comme quelque chose d'épouvantable, et ça l'est encore une fois pour 300 000 personnes, mais c'est quelque chose aussi qui peut être vécu de manière assez anodine, comme une espèce de bruit de fond, comparable au bruit du cœur ou au bruit de la respiration. Bon. Et les gens, vous savez, qui respirent fort, c'est pas pour ça qu'ils sont angoissés par leur respiration. Il n'y a pas actuellement de perspective médicamenteuse, soyons absolument clairs. Il y a des recherches, incontestablement, dans le monde entier, en particulier en France, mais il n'y a pas de perspective à moyen terme d'une molécule qui viendrait au secours de l'ensemble des acouphéniques. À mon avis, je ne pense pas qu'on trouve une telle molécule dans la mesure où l'étiologie de l'acouphène est extrêmement diverse.
Très oui, c'est large. Ça. On n'en a pas parlé, mais en fait, voilà, c'est un symptôme, c'est pas une maladie en soi.
C'est comme si on disait, on va trouver une molécule contre les fièvres. Oui, mais vous pouvez avoir de la fièvre pour tellement de raisons diverses qu'effectivement, il n'y a pas de molécule contre la fièvre. On peut faire baisser la fièvre, certes, mais en tout cas, pas éradiquer la fièvre en tant que telle.
Est-ce que vous avez l'adresse de l'association?
Oui, bien sûr.
Parce qu'on peut peut-être...
Oui, tout à fait.
Alors, je vois que vous avez un livre,
si je puis en dire deux mots.
Oui, je vous en prie.
Quand vous demandez à des thérapeutes ce qu'il y a à faire contre l'acouphène, eh bien, ils prêchent un petit peu chacun pour leur chapelle, et c'est bien tout à fait... c'est tout à fait naturel, c'est humain. Ce livre a été édité par l'association France Acouphènes il y a très peu de temps. C'est un livre très récent, qui a à peu près un an, et qui fait le point de l'ensemble des thérapies. D'où son intérêt par rapport à d'autres livres qui peuvent éventuellement capter le client, si j'ose dire, sur, on vous dira par exemple, ah bah venez chez moi, la sophrologie c'est génial, ah bah venez chez moi, je vous refais votre dentition, plus d'acouphène, etc. Bon, là vous avez un ensemble une description d'abord de ce que c'est que l'acouphène, de manière, bon, précise, mais ceci dit sans rentrer dans les détails techniques qui largueraient beaucoup de gens. Et puis vous avez un panel de, si j'ose dire, de thérapies qui permettent de se faire une idée, et encore une fois, pour reprendre une expression un petit peu légère, de faire son marché. Parce qu'on en est là, si vous voulez. Il n'y a pas de thérapie unique de l'acouphène, il y a un ensemble de thérapies qui permettent de, avec un mot à la mode, de gérer le problème au mieux de votre manière de vivre, dans la mesure où il faut quand même être clair, ce n'est pas un symptôme banal, ce n'est pas un corps au pied, c'est pas un ongle incarné, c'est un symptôme dont on peut mourir.
Je peux dire un mot, Serge? Oui. Ça n'apportera pas grand chose au débat, mais enfin à l'intérêt de la chose. Mais Robert Lamoureux, que tout le monde connaît quand même, a écrit il y a quelques années, 3-4 ans, ses mémoires, et c'est assez joyeux, c'est assez rigolo, et il est victime d'acouphènes, il y a tout un chapitre, il a consacré un chapitre à ça, et là c'est pas rigolo du tout, du tout, du tout.
Tout à fait, je pense que Robert Lamoureux a suffisamment d'humour et de tenue pour...
Oui, mais dans ses mémoires, il dit des choses drôles, et quand il aborde, c'est même probablement une thérapie de l'avoir écrit, et là on sent que pour lui c'est un vrai problème.
J'ai un mot à dire aussi, est-ce que je peux connaître le titre et les références du livre dont on vient de parler, sans indiscrétion?
Mais sûr, non, je vais vous dire, c'est mieux.
Tant mieux.
Un point que je ne peux pas exprimer.
Non, mais j'ai essayé de le deviner de toutes mes forces, ce titre, et j'y arrive pas.
Bon, alors le titre est surprenant, c'est Acouphène.
Tant l'oreille.
Incroyable.
Et l'association qui a écrit le livre, c'est absolument stupéfiant, c'est aussi Association France Acouphène.
Est-ce qu'il y a une adresse?
Il y a une adresse, c'est surprenant. Incroyable. Alors c'est édition Josette Lyon, comme la ville. Et il vous en coûtera, si vous l'achetez, 17 euros. Il y a un ISBN, donc vous pouvez le commander chez votre libraire. Et
c'est pas
l'adresse de l'éditeur.
De Josette.
Alors je vais vous le donner. C'est édition Josette Lyon, 19 rue Saint-Séverin, dans le 5e, pardon.
L'adresse chic.
Okay, oui. Voilà.
Merci beaucoup Henri Dubois.
Je me permets de donner l'adresse de l'association aussi.
Oui, mais je pensais que c'était la même, mais non,
Et l'adresse de l'association, eh bien, c'est donc France Acouphènes, 73 rue Riquet, R-I-Q-U-E-T, 75-018 Paris.
Moi, je suis quand même que.
Les caramans, les Riquets.
Ah, bah oui.
018.
Bah, tout ça n'est pas tombé dans l'arena sous...
Oh bah c'est bien, voilà, une bonne conclusion. Alors,
attention, non, la surdité n'est pas la couffaire.
Non, j'ai pas voulu le dire parce que je me suis dit qu'on allait prendre une claque, mais voilà, c'est beau.
Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 20h ce mercredi lors de notre diffusion en direct, donc vous tournez la télé contre le mur et vous restez avec nous.
Peut-être un dernier mot. Oui. Vous m'avez invité il y a un an parce que c'était la journée de l'audition 2006 et cette année c'est la journée de l'audition 2007. Donc je me permets de signaler qu'on peut se faire.
C'est le premier anniversaire.
Oui, tout à fait. On peut se faire par exemple une analyse de l'oreille, un audiogramme, exactement, par des gens compétents, et c'est une occasion effectivement de faire le point sur son audition. Voilà.
Merci beaucoup. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Merci. Mon cher Bernard, je vais vous demander de passer là
et la valse, c'est ce que je peux faire les amis.
Comme oui, ça, faites vite les annonces parce que je voudrais donner la parole à Monsieur Pateau, et ensuite nous donnons la parole à Monsieur Bernard Jacquelin. Voilà.
Alors, les dames responsables du vestiaire de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay remercient les personnes qui pourraient déposer des vêtements d'hommes propres et en bon état, 23 rue des Bernardins, dans le 5e aussi, dans la salle des catéchismes, à droite dans l'église. Pour le 44e anniversaire de la mort du colonel Jean-Bastien Thiry, fusillé le 11 mars 1963 au Fort d'Ivry, le cercle Jean-Bastien Thiry vous invite à participer à la messe célébrée à Versailles le vendredi 9 mars à 19h en la chapelle Notre-Dame des Armées, 4 impasse des gendarmes, ou à celle célébrée à Paris le samedi 10 mars
à 11h30 en l'église Saint-Odile, 2 avenue Stéphane Mallarmé dans le 17e, et à venir au cimetière de Bourg-la-Reine le dimanche 11 mars à 15h pour un dépôt de gerbes et une prière. Samedi prochain, 10 mars, de 15h à 18h30, Elisabeth Cazenave dédicacera Paul-Élie Dubois, peintre du Hogard, à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Manifestation, dimanche 11 mars à 15h30, place du Trocadéro, permis de vivre contre l'euthanasie. Conférence de Jean Sévilla, au Centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, Paris 2e, le mardi 13 mars à 20h, autour de son livre « Moralement correct ». Enfin, la parole est à la musique. Anne Brassier, Didier Rochard et Yves Tarantic vous présentent duo Gaïané, concert, voix et piano. Ça se passe à la Cité universitaire internationale, 37 boulevard Jourdan, Paris 14e, le vendredi 16 mars à 20h, entrée libre.
Je signale que le précédent concert, qui était le premier, il y avait 180 personnes, dont à peu près 179 auditeurs de Radio Courtoisie. Pardon ?
C'est beaucoup pour un concert, c'est bien.
Bah oui. Pourquoi vous riez comme ça tous les...
Rien, chef, on arrête. C'est lui, chef, qui a commencé.
C'est vraiment... Moi, je pensais qu'en mettant un aristocrate et un prolétaire côte à côte, j'arriverais à les éliminer tous les deux, mais non, il n'y a rien à faire. Bien. Je ne sais pas ce qui leur prend de rigoler comme ça. C'est sympa de rigoler sans me faire participer. Merci, monsieur. On va parler dans quelques instants d'un nouveau journal. On fait des estimants de la pub à la concurrence. Mais j'aime bien parce qu'il s'appelle Tribune Gauloise, le premier magazine d'histoire gauloise. Et naturellement, il ne s'agit pas d'histoire gauloise. Voilà. Dégénéré complet.
Serge, je croyais qu'on allait parler d'abord de mon livre.
Non. Eh ben, on va parler du livre. Non, on va surtout parler du magazine. On va parler du livre, bien sûr.
D'accord.
Mais le magazine, je trouve que c'est plus dynamique de parler d'un magazine.
Très bien.
Mais avant, je voudrais me tourner vers Jean Patteau. Alors, Jean Patteau, c'est un collaborateur aussi du Liber Mirabilis. J'en ai parlé souvent. Liber Mirabilis, je dirais pour simplifier que c'est un peu... alors, juste d'abord, première chose, les antignostiques, vous pouvez fermer tout de suite le poste, c'est pas pour vous. Goffman, vous pouvez sortir, les mains sur la tête au coin parce que j'en ai marre. Marquis, attention, vous êtes menacé des mêmes peines.
Rondeau,
hein, Rondeau, il est sage.
Non, à côté du micro même.
Bon, alors, pas. Je disais donc, le Liber Mirabilis, c'est un peu le successeur de l'esprit planète. C'est un peu le releveur de l'esprit planète, le repreneur de l'esprit planète. Et c'est dirigé par Jean-Marc Savary. Et l'abonnement est de 130 €, ce qui peut paraître cher, mais la revue est très belle. Et ce qui vous paraîtra encore moins cher, c'est que pour les auditeurs de Radio Courtoisie, et uniquement pour eux, Jean-Marc Savary propose une remise de 50% sur le prix de l'abonnement. Donc, si vous voulez vous abonner, il faut écrire au Centre européen des mythes et légendes, l'île de la Cité, comme l'île de la Cité à Paris, mais c'est à Carcassonne 11 000, et vous envoyez donc 50% de 130, je vous laisse faire le calcul, moi je trouve ça trop fatigant. Et vous aurez des papiers tout à fait intéressants, comme dans le dernier, j'en ai déjà parlé dans l'émission récente d'Anne Brassier, qui avait eu la gentillesse de m'inviter, un formidable article d'Alexis Sarrette qui s'appelle « La lettre et l'esprit », dans lequel il parle de moi, c'est pour ça que je trouve ce papier vraiment excellent. C'est pas la seule raison, quand même, je le précise. Voilà. Alors, Jean Patteau est un... Comment vous définir, Jean Patteau?
Je serais bien embarrassé.
Ben voilà. Mais soyez gentil de rapprocher le micro pour qu'on vous entende.
Je serais bien embarrassé pour me définir. Enfin, disons que je m'intéresse aux questions symboliques, philosophiques, et à la gnose alexandrine, par exemple.
Voilà. C'est pour ça que j'ai dit aux antignostiques d'aller regarder la télé. Tiens, ils peuvent regarder mon excellent camarade, comment s'appelle-t-il, Poivre d'Arvor, ça changera.
Vous avez, là, j'ai deux livres de vous. L'un s'appelle Le Sacré à l'épreuve de la modernité et l'autre, qui est une suite, s'appelle La chair et le regard de l'ange. Et ce sont des livres de réflexion, de, j'ose pas dire d'initiation, c'est un peu ça.
Oui, c'est tout à fait ça.
De réflexion sur l'initiation. Le premier est préfacé par Bernard Béret.
Oui.
C'est assez curieux, c'est inattendu, non ?
Oui, mais vous savez, je suis éclectique. effectivement, Bernard Béret a des appartenances qui ne sont pas nécessairement très à droite, mais je crois avoir quelques amis à gauche.
Oui, c'est pas en termes politiques que je poserais la question. Enfin, c'est pas en termes politiques que je posais la question, c'est plutôt en termes de recherche spirituelle, parce que votre livre Le Sacré à l'épreuve de la modernité pose une vraie question, qui est la question de la survivance du sacré. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui quelque chose qui peut évoquer ce qu'était le sacré dans la tradition française?
Pourquoi dites-vous dans la tradition française, soyons plus universalistes,
oui, enfin, dans le monde moderne? J'ai déjà du mal à m'intéresser à ce qui est au sud de la Loire, alors...
Oui, mais disons dans le monde moderne, oui, enfin.
Alors voilà.
Et entre autres, peut-être tout l'intérêt qui est porté à la gnose, vous voyez, qui est quand même très marquant actuellement.
Oui, mais justement, c'est presque une perversion du sacré, là.
Ça, monsieur, c'est une démonstration qui reste à faire.
Oui, voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Qu'est-ce qui reste de sacré dans notre société aujourd'hui? En quoi le sacré se manifeste-t-il? Est-ce qu'il se manifeste encore, par exemple, dans l'Église?
Oui, il se manifeste en ce sens qu'une multitude de gens cherchent dans l'authenticité, et peut-être moins dans les rites formels. Il y a une recherche intérieure, et peut-être une recherche loin du conventionnel, parce que l'Église du XIXe siècle, c'était quand même une Église très conventionnelle.
Oui, mais moi, ce que je crois, enfin, je vous donne mon opinion, c'est que tout le ritualisme, c'est pas du tout une charge. C'est pas du tout quelque chose qui est de nature à éloigner.
Il en faut du rituel.
Au contraire, je trouve que c'est une très grande marque d'intérêt, j'ai presque de compassion pour les pauvres hommes qui sont incapables d'accéder au sacré directement et qui ont besoin de toute une préparation par le rituel, par toute une instrumentation, de toute une représentation. Parce que si on vous raconte par exemple, je sais pas moi, un opéra comme, je sais pas, Don Juan, on vous dit, voilà, c'est l'histoire d'un type qui, etc. C'est quand même moins fort que si on vous fait assister à une représentation de Don Juan. Mmh. Et de même, si on vous dit, tiens, écoute, on va penser pendant 5 minutes à ce personnage qui est mort sur la croix il y a 2000 ans, et puis on va manger un morceau de pain et boire un coup de rouge à sa santé, c'est quand même pas tout à fait aussi motivant qu'une très belle messe servie avec tout l'appareil et tout, la messe à 18 chevaux, comme dit notre ami Varlet, c'est ça. Donc, je crois que le sacré, là, il est direct, il découle direct. L'accès au sacré est largement facilité par le ritualisme, et non pas le contraire.
Oui, incontestablement, il y a incontestablement aussi un appauvrissement des rituels.
Ah, c'est ça.
C'est sûr, et notamment
par
l'abandon du latin, n'est-ce pas? Ceci dit, je vous avoue, moi, il m'arrive couramment d'assister à des messes orthodoxes en français, et je suis surpris de la qualité des rituels.
Oui, mais c'est très réducteur de dire que on dit la messe en latin. Les traditionnalistes veulent revenir à la messe en latin. C'est pas le problème. La messe en latin, c'est aussi simple que la messe en anglais. Je raconte toujours cette histoire d'amis qui étaient en Arabie Saoudite, je crois. Je me sens que c'est en Arabie Saoudite, où les catholiques qui étaient en poste là-bas se réunissaient dans un appartement pour dire des messes clandestines, puisque c'est absolument interdit. Célébrait la messe en anglais.
Quand on parle de rituels en latin ou dans une autre langue, on oublie généralement de parler des grégores. voyez. Alors non, qu'est-ce que c'est que l'égrégore?
Selon vous, quelle définition donnez-vous?
Oui, bien sûr, mais enfin, on peut dire approximativement, c'est l'égrégore est l'âme d'un groupe, n'est-ce pas? Et tout le problème, c'est que quand on abandonne un rituel, on se sépare de l'égrégore, qui, et en l'occurrence, les rituels de l'Église catholique romaine étaient extrêmement forts, puisque chaque prêtre devait chaque jour célébrer le même rituel, enfin avec quelques nuances près, et c'est ça depuis des siècles, n'est-ce pas, à travers le monde. Alors il y avait un rituel extrêmement fort, et il y avait donc un égrégore de ce rituel, indépendamment des humains incarnés.
C'est aussi dû au fait que, étant le déroulement des heures, à chaque instant de la journée,
voilà, sûr,
il y a une consécration qui était donnée dans le monde,
bien sûr, dans
à chaque seconde.
Entier, dans le monde entier. Oui, mais vous parlez, je voudrais dire, parce que vous parlez de la matière, justement.
Oui.
Il n'y a pas que la terre, il n'y a pas que le monde qu'on voit, il n'y a pas que les chrétiens qui sont incarnés, n'est-ce pas? Il y a aussi l'âme de ce rituel. N'est-ce pas? Ce qu'on ne dit presque jamais. Et ce qui importe, c'est que l'égrégore, l'âme du rituel, comme un couple pôle nord-pôle sud, le rituel nourrit l'égrégore et l'égrégore nourrit le rituel.
C'est certain.
N'est-ce pas? Vous voyez, c'est fondamental. Et on ne parle jamais de l'égrégore. C'est ça qui importe.
Alors,
et l'implosion de l'Église tient en grande partie à l'abandon de son égrégore rituelique.
Je vous prêchez un convaincu.
Oui, mais on ne le dit presque jamais.
On ne le dit pas beaucoup, mais c'est vrai que à partir...
Je vois un de nos amis qui fronce ses sourcils.
Non, parce que lui, c'est un vieux militant trotskiste.
Si vous ne comprenez pas, dites ce que vous ne comprenez pas. Je voudrais être explicite.
Ce que je ne comprends pas, c'est où vous avez trouvé une messe orthodoxe en français. Là.
C'était incidemment.
Non,
peu importe. Le problème...
Voilà,
on ne va pas faire une réclame.
À la cathédrale, il célèbre en français.
Revenons-en au problème de l'égrégore, voilà. C'est plus important.
Alors, revenons à ça, effectivement. La difficulté, enfin le motif, la raison qui a fait exploser, en quelque sorte, la chrétienté, c'est la disparition... du rituel?
Ah non, non, c'est pas la seule raison. Vous parlez
du rituel.
Ah non, la raison, s'il fallait trouver une raison très vague, très large, n'est-ce pas, c'est, alors excusez-moi, on entre dans une autre catégorie, plus ou moins gnostique, c'est le fait que le temps n'est pas linéaire, ni uniforme, mais qu'il est cyclique, ou plus exactement hélicoïdal. Autrement dit, chaque temps est qualifié. Et nous sommes dans un temps qui est extrêmement qualifié. Et la principale qualification de ce temps, c'est d'être un temps d'une fin de période. On est à la fin d'un temps. Déjà dans les évangiles, on était déjà à la fin d'un temps. Alors, c'est une période, les 2000 ans en question concernent la dernière page du roman. N'est-ce pas? C'est-à-dire que le roman est extrêmement long, n'est-ce pas? Alors, il est très difficile de le quantifier. Guénon suggère... En insistant pour dire que c'est une hypothèse, il suggère le chiffre, je crois, de 66 000 ou 68 000 ans, c'est-à-dire de 2,5 fois la précession des équinoxes, et on est à la fin d'un temps. Alors, on est à un temps qui est caractérisé par l'effondrement de toutes les structures, et pas seulement du rituel de l'Église catholique.
Oui, enfin, c'est celui qui, moi, m'intéresse directement.
Oui, soit, mais il a l'avantage d'être extrêmement signifiant, puisque ce qui concerne les églises, enfin, les religions en général, c'est ce qui est le plus durable. Les empires, les idéologies, tout s'efface. Les religions, en principe, se disent éternelles. Mais à l'époque que nous vivons, elles se dilitent.
Mais quand vous dites le sacré à l'épreuve de la modernité, en fait, c'est paradoxal, parce que ce que vous nous dites là, c'est qu'il s'agit d'un phénomène naturel, d'un phénomène cyclique, donc qui est inévitable.
Ah oui, mais il est quand même extrêmement particulier. On vit un temps extrêmement particulier.
Oui, mais on n'y peut rien.
Non, on n'y peut rien.
Il n'est pas à l'épreuve de la modernité. C'est pas la modernité qui provoque l'effondrement du sacré. C'est un phénomène naturel.
La modernité est une caractéristique de notre période.
C'est un effet.
C'est à la fois un effet et une cause. Mais enfin, c'est un temps dans cette fin des temps. Au point de vue historique, on considère que la modernité a commencé à la chute de Byzance, n'est-ce pas?
Oui. Les avis sont partagés. Oui, les pentes, la chute de Byzance.
Oui, mais enfin, en général, c'est une période généralement acceptée. Enfin, autrement dit, le monde moderne, ça fait déjà 5 siècles qu'il dure, voire 5 siècles et demi.
Oui, il a duré assez longtemps, à mon avis. Alors, la question, c'était si on peut quelque chose pour en quelque sorte ranimer le sens du sacré dans les sociétés modernes, ou est-ce que c'est peine perdue? Est-ce qu'il n'y a rien à attendre de ce côté-là? Et si on peut, comment peut-on le faire?
Ah oui, mais ça, je ne suis pas sûr que votre question soit bien posée, pardonnez-moi de vous le dire. Il y a les individus qui ont conservé une possibilité de choix, et puis il y a l'évolution collective qui est probablement inéluctable, n'est-ce pas? Alors, en ce qui concerne l'évolution collective, sans doute qu'on entre dans un monde nouveau, n'est-ce pas, dont nous avons une multitude de prémices. Par exemple, l'informatique, c'est quand même fabuleux, l'informatique. C'est-à-dire que nous vivons un temps qui est absolument singulier par rapport à toute l'histoire connue. Et l'histoire connue, c'est sans doute une tranche très très brève de l'histoire réelle.
Mais le temps informatique, ou le temps de l'informatique, il est annoncé dans l'écriture en termes symboliques très clairs. Hein, quand on dit tu ne bâtiras pas ta maison sur le sable, c'est exactement la définition de l'informatique qui fonctionne avec le silicium.
Oui,
bon, et qui est et qui est un système binaire. C'est-à-dire,
oui, enfin, bon, monsieur, ce que je voudrais dire.
Des grains d'informations. Donc,
on vit un temps extrêmement singulier, ce dont nos contemporains ne semblent pas avoir conscience, alors qu'il suffit de regarder le monde dans lequel nous sommes, n'est-ce pas? Par exemple, l'extrême évolution des rythmes, l'extrême densité des rythmes, n'est-ce pas? Aliphas Lévy disait en 1860, il s'est passé plus de choses de Louis XVI à maintenant que de Cyrus à Louis XVI, n'est-ce pas? Voyez. Et on peut dire qu'il s'est passé encore plus de choses depuis Aliphas Lévy en 1860 que de Louis XVI à Aliphas Lévy. Alors, il y a l'accélération des rythmes. Je dis aux débeautés, il y a mille choses. Il y a par exemple l'allongement de la vie humaine. Il y a la modification de la puberté qui n'est plus au même âge. Il y a le fait qu'en Occident, on est dans une civilisation d'abondance. Alors que toujours...
L'allongement de la vie humaine, qui est une chose dont on parle beaucoup, c'est une fable. Ça n'a pas de réalité scientifique prouvée.
Bon, monsieur.
Non, mais par exemple, c'est pour ça que ce sont des sujets extrêmement délicats, parce que on considère qu'il est acquis que l'homme vit plus vieux maintenant. C'est pas vrai. Vous pouvez visiter les cimetières, vous verrez qu'il y a toujours eu des centenaires.
Ah, bah, bien entendu. Bien entendu.
Ce qui change, c'est la moyenne d'âge d'une population.
Bah, si vous voulez.
Quand vous perdez 9 enfants sur 10 à la naissance, évidemment,
bien
ça
sûr,
fait beaucoup baisser la moyenne d'âge.
Bien sûr.
Et donc, il y a toujours eu des. Non, mais ça, c'est important de le dire, parce que. On pourrait penser que dans la tradition, si la sagesse est liée à l'âge, notre société devrait être plus sage que les sociétés précédentes.
Il y a probablement, je dirais, plus de sages et plus de fous dans notre société que dans les sociétés antérieures, n'est-ce pas? Ça, il y a un éclatement des qualifications, ça je crois. Et c'est un des signes, probablement, un des signes peut-être rassurants du temps futur, du temps qui s'annonce.
Vous trouvez qu'il y a quelque chose de rassurant?
Vous abordez l'avenir
avec une certaine sérénité.
Vous généralisez, je n'ai pas dit ça. Il y a des facteurs rassurants et des facteurs, je dirais, inquiétants, en ce sens que nos certitudes, comme je le disais tout à l'heure, se délitent et tout s'effondre. Alors, de ce point de vue-là, par exemple, le rituel de l'Église catholique est un exemple éminent, n'est-ce pas? Mais inversement, il y a des éléments positifs. On est probablement.
Par exemple,
je viens de vous le dire, le fait que la vie humaine s'allonge, vous ne l'acceptez pas. Moi, je pense qu'il y a des données statistiques qui sont objectives, alors que nos auditeurs.
Bon, admettons-le, mais en quoi est-ce positif que la vie s'allonge?
Ah ben, c'est quand même. Si on s'incarne, c'est quand même pas pour des prunes, n'est-ce pas? Je dirais, par exemple, plus la vie humaine est longue, plus l'homme peut se rapprocher de Dieu.
On peut vous dire exactement. On vous dit exactement le contraire.
On est éloigné, bien entendu.
On dit heureux ceux qui meurent jeunes.
Oui, ça c'est une consolation.
Notre ami Al Gould a écrit deux superbes bouquins sur les jeunes saints.
Oui, mais bien sûr, monsieur, bien sûr. Mais enfin, il ne reste pas moins l'incarnation devrait, en principe, doit avoir un objet, n'est-ce pas? L'incarnation, c'est pour, c'est un moment d'épreuve. Et plus l'épreuve est longue, plus on peut apprendre, n'est-ce pas? Alors, elle sert quand même à quelque chose, l'incarnation, me semble-t-il.
Certainement, mais je ne pense pas que ça soit lié. Je ne pense pas que ce soit une question de durée. En tout cas, je vois, moi, assez mal ce que peut avoir de positif, ce qu'on peut trouver de positif dans l'évolution des sociétés actuelles et des systèmes de pensée, même des systèmes philosophiques.
Là où je vous suis, c'est effectivement, encore une fois, les choses se disparaissent. Imaginez ce que vous n'imaginez peut-être pas, comment peuvent vivre les gens de gauche actuellement, dont toutes les idéologies s'effondrent, n'est-ce pas? Oui, c'est pas drôle. Alors, vous pensez aux structures...
Pour eux, c'est pas drôle.
C'est pas drôle pour eux. Oui, c'est ce que je voulais
dire. Pour moi, je trouve ça extraordinairement rigolo.
Ce sont nos frères, n'est-ce pas? Alors, les gens de droite constatent la dissolution des certitudes traditionnelles, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a, même de l'autre côté, il y a une dissolution. C'est encore bien plus marqué, d'ailleurs. Imaginez pour un communiste ce qu'est le monde depuis l'effondrement du mur de Merlin. La maison mère a disparu, n'est-ce pas? Comprenez?
Bien sûr.
Il n'y a pas que
ça, c'est une consolation, effectivement.
Pas pour eux. Pas pour eux. Ils existent. Ils existent.
Oui,
voyez.
Hélas. Bon, enfin, ça nous éloigne du sujet.
Et la franc-maçonnerie, non plus, là, parce que tout à l'heure, on parlait de l'égrégore. Là, on est en plein dedans quand on est en maçonnerie, non? J'entends ça dans les loges sans arrêt. Les Grégores, on est là tous ensemble, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a une sacralisation du rituel maçonnique? Je ne sais pas.
Ah ben, moi, monsieur, je ne suis pas maçon.
Non, mais vous êtes penché sur tous les rituels.
J'ai un certain nombre, grâce à Dieu, d'amis maçons. Qui d'ailleurs, ne croyez pas, sont anticléricaux. La plupart de ceux que j'ai le plaisir de côtoyer ne sont pas anticléricaux. Ah, voyez-vous, je découvre depuis peu de temps, d'ailleurs, qu'il y a une maçonnerie et qui est religieuse, sacralisée, spiritualiste, et pas du tout anticléricale.
Je crois que le danger, enfin un des dangers à mon avis de la maçonnerie, c'est que la maçonnerie ou de tous ces mouvements ou de toutes ces organisations ou ces associations, c'est justement qu'elles prétendent fabriquer un égrégore. Or, cet égrégore, c'est quelque chose d'extraordinairement dangereux parce que s'il n'est pas sous contrôle des puissances d'en haut.
Bien sûr.
Il devient le jeu des puissances d'en bas.
Absolument. Absolument.
Or, pour autant que je sache, en maçonnerie, aucune précaution n'est prise.
Ça, monsieur, je ne peux pas en parler, je ne suis pas maçon.
Disons qu'ici, il y a une ou deux personnes qui peuvent en parler.
Bah oui, mais
j'ai pas beaucoup le souvenir que des précautions soient prises quand on fabrique un égrégore en loge pour éviter que s'en empare une cochonnerie quelconque.
Vous parlez sur un terrain, je ne sais pas.
C'est ça qui est important. En revanche, quand vous êtes dans une église et que vous priez devant le tabernacle, là, il y a quelque chose qui protège très très bien de l'irruption de la vilaine bête dans un lieu où il n'a rien à faire.
Vous savez, plus les lieux sont qualifiés, et plus Satan s'y intéresse.
Oui, c'est certain. D'ailleurs, vous savez que il y a une personne qui a été arrêtée il n'y a pas très très longtemps, m'a-t-on raconté, à Saint-Nicolas du Chardonnay, en train de piquer des hosties. Et on lui a dit, mais pourquoi vous venez? Alors, il y a eu une bousculade, naturellement, puis une discussion, enfin. Et on a dit à cette personne, on a dit que c'était une femme, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon. Mais pourquoi vous venez à Saint-Nicolas alors que cette église est en permanence occupée par des dizaines de gens?
Le rituel, je dirais, est plus authentique.
Voilà. Et pourquoi vous n'allez pas dans les églises désertes ou
voilà,
et elle a dit, mais parce qu'il n'y a qu'ici qu'elles sont bonnes.
Voilà. Bon.
Je voudrais revenir à cette question du sacré. Est-ce que, selon vous, le sacré a un rôle protecteur dans notre vie d'aujourd'hui?
Éminemment. Enfin, je dirais, c'est la prière. C'est comme si vous me disiez, est-ce que ça vaut la peine de prier? Oui, bien entendu. L'homme coupé d'en haut, ce qui est peut-être notre cas, plus ou moins à tous, n'est-ce pas? Enfin, très souvent, je dis nous. Tout le problème, c'est d'être relié en haut, n'est-ce pas? Bien sûr. Et le sacré a pour objet c'est une façon de parler, enfin pour parler court, de renforcer l'immanence des puissances d'en haut. Est-ce qu'on peut dire ça, je crois?
Oui, parce que il y a quand même, on peut se poser la question de l'origine de la perte du sacré. Parce que vous dites c'est cyclique.
C'est très ancien.
Mais en même temps, il est évident que si on supprime les systèmes de protection ou les moyens de se prémunir contre l'irruption du mal ou contre la mauvaise volonté ou le mauvais vouloir du mal, si on supprime tout ça, ça devient beaucoup plus facile. Est-ce qu'on peut pas, alors ça, Goffman va encore dire que je fais du complotisme, mais imaginez qu'il y a une mauvaise intention dès le départ, c'est-à-dire de faire disparaître le sacré, de modifier les rituels de telle façon qu'ils perdent leur dimension sacrée pour faciliter la destruction de l'intérieur du système.
Oui, en réalité, votre question, elle est extrêmement polyvalente. Voyez, je ne sais pas si elle est collective, si elle est individuelle. Vous avez parlé d'intention. Je ne sais pas comment.
Est-ce qu'il y a une force extérieure?
Attendez, voilà. Il y a une force extérieure. Il y a des forces extérieures, il y a des forces intérieures. Il y a les deux, n'est-ce pas? D'abord, il y a tout le processus dont je parlais tout à l'heure, n'est-ce pas? On est à la fin d'une période, et quelles que soient les intentions des collectivités ou des individus, on vit la fin d'un temps. N'est-ce pas? Je dirais la fin d'une nuit d'ailleurs, c'est pas la fin d'un jour, on vit la fin d'une nuit, c'est pas pareil, on est à la fin d'une nuit. D'ailleurs, dans Saint Jean, il est dit et répété le prince de ce monde, n'est-ce pas? Dans l'évangile de Jean, il s'est dit au moins trois fois l'expression le prince de ce monde, à l'époque de Jean, c'est-à-dire il y a 2000 ans, le prince de ce monde, c'était pas le Christ. Ça n'était pas le Christ, le prince de ce monde, déjà à l'époque. Alors depuis, il a encore grandi, n'est-ce pas? Mais on est à la fin du temps de son règne, me semble-t-il, n'est-ce pas? On est à la fin de la nuit. On n'est pas loin des premières lueurs de l'aurore. Voyez, c'est-à-dire, on est dans un temps de décrépitude, disons, on, alchimiquement, on dirait, dans un temps de putréfaction, n'est-ce pas? Mais comme on est à l'extrême fin de ce temps, nous sommes aussi au temps de l'espoir, n'est-ce pas? Et alors, au temps de l'espoir, sur le plan religieux, est-ce qu'on ne va pas vers une religion universelle? Voyez-vous, je vais peut-être vous scandaliser, mais est-ce que le christianisme, comme les autres religions, ne va pas donner naissance à autre chose?
En tout cas, pour un catholique, enfin pour le catholique que j'essaye d'être, il est évident que la religion universelle, et comme le nom l'indique d'ailleurs, ça ne peut être que le catholicisme. C'est-à-dire, c'est la seule voie possible.
Dans l'optique où nous sommes, je dirais nous, parce que moi aussi je me considère peut-être à tort comme catholique, mais...
En tout cas, on essaye.
Vous savez, Jésus a dit, je ne vous l'apprends pas, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir.
Hein, oui, voilà.
Alors ce sera peut-être l'accomplissement, mais l'accomplissement suppose une genèse, une génération, une transformation. Enfin,
Oui, alors, mais ça revient, ça repose la question, toujours la question du sacré, c'est-à-dire que et du rituel. Comment peut-on imaginer, enfin, est-ce qu'on peut imaginer plus exactement une religion universelle qui soit une espèce de prolongement, d'accomplissement de notre religion catholique, qui est incomplète, qui est imparfaite, si on veut. Comment peut-on l'imaginer à travers un rituel, à travers une, oui, un rituel ou un nouveau rituel ou un nouveau
c'est,
rituel.
Je pense que c'est actuellement impossible à imaginer, parce que le jour, le nouveau jour n'est pas encore levé.
C'est bien le sentiment qu'on a. On a l'impression qu'on est en train de s'affranchir des modes de sacralisation anciens, sans avoir rien à proposer.
Absolument, absolument. Là, je vous suis, monsieur, je vous suis. Il est trop tard pour se référer au passé, et il est trop tôt pour imaginer l'avenir, sur le plan dont vous parlez, n'est-ce pas? Oui, je crois.
Alors, votre deuxième livre, c'est La chair et le regard de l'ange, et je trouve le titre extraordinairement ambigu, parce que le titre, on a l'impression que vous évoquez la chair comme le lieu du péché, et le regard de l'ange comme le regard du juge.
Oui.
Or, c'est pas du tout ce que vous voulez dire.
Non, c'est vrai.
Vous
c'est
voulez
vrai.
Parler de l'incarnation.
Oui.
Et alors, quel est le regard de l'ange?
Ben, le regard de l'ange, je dirais, c'est le regard de l'initié. Et parce que, pardonnez-moi, parce que dans une optique guénonienne ou gnostique, tous les états humains sont accessibles, et notamment l'état angélique, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est-à-dire que le cheminement intérieur.
Mais est-ce que ça veut dire que la chair est le niveau de la. Bon, puisque vous faisiez allusion à l'alchimie tout à l'heure, qui sous-tend d'ailleurs vos livres, hein, c'est, on voit bien que votre démarche est tout le temps imprégnée de cette méthode.
Oui, si vous voulez.
Hein, qui est l'alchimie. Alors, est-ce que ça veut dire que la chair, c'est l'état de putréfaction,
et que sûrement,
le regard de l'ange, c'est oui, ce qui conduit vers
oui, on peut
la
aussi
découverte
dire ça.
De, enfin, l'accession à sublimer. Enfin,
disons que l'objet de cet ouvrage, c'est en quelque sorte le chemin initiatique. Alors c'est depuis le départ, depuis l'œuvre au noir qui concerne justement à récuser sur le plan individuel, il s'agit d'une démarche individuelle là, n'est-ce pas, ça consiste à récuser toutes les certitudes de l'éducation reçue, quel que soit le milieu dans lequel on est, n'est-ce pas, et quelle que soit la civilisation, le siècle et le lieu. Et c'est ensuite d'accéder à un cheminement initiatique. Je ferai un commentaire. Je vais faire un commentaire sur la discussion antérieure. Voyez-vous, l'un des avantages de notre société, enfin de notre temps plutôt, c'est que, comme toutes les certitudes s'effondrent, l'œuvre au noir, c'est-à-dire le rejet, la remise en cause et le rejet des certitudes reçues, est beaucoup moins difficile qu'antérieurement. Et c'est un des avantages de notre société. Enfin, celui qui a des oreilles comprenne. Je ne sais pas sûr.
Oui, je sais bien m'expliquer. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez certainement raison. Enfin, vous avez, la direction que vous indiquez est certainement intéressante, mais elle n'est applicable ou elle n'est explorable que si on a. Je dirais les moyens de vocabulaire, les moyens de réflexion, les moyens d'intelligence, de discernement pour prendre cette voie. Parce qu'autrement, une fois qu'on a accompli l'œuvre au noir, qu'on a rejeté tout ce qu'on a appris, si on n'a pas, on est dans la situation d'aujourd'hui, de cette société ou de ce temps qui est un temps
voilà.
qui ne reconnaît rien, qui
voilà,
n'accepte aucune valeur.
Absolument.
Si on n'a pas quelque chose, un fondement ou un compost d'où on va faire jaillir dire quelque chose de nouveau.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est extrêmement difficile.
On reste complètement égaré.
Peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Parce que, vous savez, on dit qu'il y a trois chemins, comme il y a trois couleurs fondamentales, le bleu, le jaune et le rouge, n'est-ce pas? Alors, il y a le chemin de la gnose que nous évoquons, n'est-ce pas? Et là, je suis d'accord avec votre propos. Mais il y a aussi le chemin de l'amour et le chemin des œuvres, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas comment fonctionnait Mère Teresa, mais elle n'avait pas besoin de gnose.
Non, vraiment pas.
Voilà, vous comprenez.
Pas plus que Sainte Thérèse.
Voilà, exactement, exactement. Évident. Alors, autrement dit, votre propos s'applique à un certain nombre d'individus, ceux qui sont sur le chemin de la connaissance, en quelque sorte. Mais il y a deux autres chemins que celui-là.
Qui sont plus difficiles, peut-être.
Ah, je ne sais pas s'ils sont plus difficiles.
Ah, je crois, le chemin de l'amour, il est quand même...
Ils sont donnés ou ils ne sont pas donnés.
24 sur 24, c'est difficile.
Oui.
Enfin, voilà, écoutez, je ne sais pas si on a... J'espère qu'on a donné envie aux auditeurs, à certains auditeurs, de lire votre livre. C'est pas des livres faciles, hein.
Non, ce ne sont pas des livres faciles.
Ce sont des livres... Et c'est pas non plus... ce ne sont pas non plus des livres de distraction. Hein.
C'est
des
livres c'est vrai.
Imposent une réflexion, une lecture approfondie et puis une remise en cause sans arrêt. C'est un peu, c'est souvent choquant, souvent un peu déstabilisant,
mais tout à fait.
Et Savary m'avait prévenu, il m'avait dit attention, c'est pas.
Je suis un de ses collaborateurs.
Oui, bien sûr, c'est pas de la littérature enfantine. Voilà.
On donne quand même les références.
Oui, on va donner les références, bien sûr. Alors, il s'agit donc de premier livre, Le Sacré à l'épreuve de la modernité. De Jean Patou, P-A-T-A-U-T, préface de Bernard Béret. C'est paru aux éditions du Trigramme. Et j'espère que nos auditeurs antignostiques ne sont plus là, parce que on est reparti pour... Et le deuxième, La chair et le regard de l'ange, aux éditions traditionnelles, 32 rue des Fossés Saint-Bernard, 75...
Mais ils n'y sont plus, aux 32 rue des Fossés Saint-Bernard.
Plus là. Alors, donnez-nous la nouvelle adresse.
Alors, je l'adresse informatique, E-T... E comme Émile Thérèse, E-T point, brère comme le verbe brère, arrobase, voilà, point fr. E-T, brère, arrobase, voilà, point fr. Enfin, ces livres se trouvent au Voile d'Isis, 3 rue Pierre Fontaine, et enfin notamment, et à la librairie du Graal, et 15 rue Jean-Jacques Rousseau.
Au cas où on n'aurait pas compris.
Paris premier.
Au cas où on n'aurait pas compris de quoi il s'agit. Quand même, on n'est pas dans
l'exotérisme.
On n'est pas dans l'exotérisme manifesté. Et on n'est pas non plus. C'est pas la procure, quoi. Hein.
Non, c'est pas la procure, c'est vrai. Mais j'y vais souvent, d'ailleurs, la procure.
Merci, Jean Patou. Je conseille aux auditeurs qui s'intéressent à ces sujets de lire ces livres. Ce ne sont pas des livres faciles, mais ce sont des livres importants, qui apportent quelque chose, qui apportent une vraie réflexion. Et vous écoutez toujours Radio Courtoise, à moins que vous ayez suivi mon conseil tout à l'heure et que vous soyez en train d'écouter
Poivre
d'Arvor, mais dans ce cas-là, vous ne m'entendez pas. Donc
on a retourné la télé contre le mur et on reste avec Courtoisie.
Et alors, on peut également lire Jean Patou dans le Liber Mirabilis, pas le dernier numéro, mais dans la revue Liber Mirabilis de mon excellent camarade Jean-Marc Savary. Qui est l'éditeur de ce livre qui a fait un certain bruit après qu'on en a parlé sur cette antenne, le livre de Bertrand Hacquin sur l'Apocalypse.
Éditions L'Âge d'Homme.
Voilà, aux éditions L'Âge d'Homme. Je rappelle l'adresse du Liber Mirabilis, Centre européen des mythes et légendes, Lille, L'ILLE, 11 000 Carcassonne.
Il y a 3 secondes de pub pour la librairie L'Âge d'Homme qui s'est aérée. Il y a une nouvelle équipe. Natacha Payin, pour ceux qui l'ont entendu ici, l'attachée de presse, a pris la gérance courageusement parce que bon, c'est pas une sinécure la gérance de L'Âge d'Homme, c'est un éditeur en même temps. Et puis il y a un garçon sympathique qui est venu sur cette antenne aussi plusieurs fois, Olivier François, qui a maintenant plusieurs années d'expérience comme libraire professionnel. professionnels. Donc, on les salue, on leur souhaite bon vent à cette nouvelle équipe. Et on rappelle donc la librairie L'Âge d'Homme, c'est toujours 5 rue Férou, Paris 6e, métro Saint-Sulpice.
Merci. Alors, je me tourne maintenant vers... Alors, comment faut-il vous appeler, cher ami? Parce que je vois que vous avez un pseudo que je trouve magnifique. Ah bah, quel est le vrai nom?
C'est mon nom civil est Bernard Jacquelin. Et alors, j'ai pris comme nom d'écrivain Guyot de Pravieux, qui est le nom de ma grand-mère. Voilà,
c'est très bien. Et Bernhard?
Bernhard, parce que Bernard, ça vient de Bernhard. Bern, c'est ours en germanique. Et Hart, c'est ours en gaulois, en celtique. Voilà.
Nounours, ça fait deux fois ours.
Deux fois ours.
Alors, vous publiez, donc vous avez écrit un bouquin qui est tout à fait intéressant et troublant sur les innombrables tribus gauloises. Moi, j'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de Gaulois j'avais mes certitudes là-dessus, mais je pensais pas qu'il y avait autant de Gaulois que vous en avez relevé. Il y en a partout, au fond.
Ah non, le livre est un peu plus large que le monde celtique, puisque je pars des Atlantes, l'Atlantide. Donc après, il y a ce qu'on appelle les peuples touraniens. Alors les touraniens, c'est un peu l'équivalent des Indo-Européens. Disons que c'est un chapeau linguistique qui coiffe énormément de peuples très anciens, et dont il reste les Basques, les Finnois, les Hongrois, etc. Et ensuite sont venus des peuples guerriers, qui étaient donc les Indo-Européens. Et un des rameaux de ces Indo-Européens... a donné les peuples celtiques, le peuple gaulois. Celtique et gaulois étant synonymes d'ailleurs.
Et alors, donc ça c'est le bouquin, et il est vraiment très étonnant à lire, parce qu'on voit apparaître des dizaines et des dizaines de tribus, de groupes ethniques, de groupes culturels, linguistiques, je sais pas comment il faut appeler ça, mais on s'aperçoit que c'est d'une richesse inouïe cet univers.
Bah inouïe, oui, c'est un foisonnement de cultures, de peuples. Voilà, et puis les migrations qu'ils ont faites, puisque ça couvre non seulement l'Europe actuelle, mais également toute l'Afrique, puisqu'ils ont occupé l'ancien Sahara qui était fertile, jusqu'à l'Afrique noire. Ça a donné les Berbères, et les Berbères ça a donné les Kabyles, etc. Donc les Kabyles ici, ils savent même pas qu'ils sont européens la plupart du temps.
Oui, hein, comment ça, on leur apprend petit à petit?
Bah, on leur apprend petit à petit. Enfin, quand
tu parles des Arabes, on comprend qu'ils sont en train de comprendre.
Ils sont en train de comprendre la différence. Et puis jusqu'à la Chine même, puisque ils ont occupé la Sibérie. La Sibérie était chaude et fertile pendant des millénaires et des millénaires. Et la race blanche a occupé la Chine.
C'est pas l'histoire du Sahara.
A occupé la Chine, a occupé l'île d'Aikado au Japon, etc.
Oui.
Et on a trouvé en Chine des pyramides, par exemple, qui sont deux fois plus hautes que la pyramide de Gizeh. Et des tunnels et des constructions souterraines qui s'étalent sur des milliers ou des centaines de kilomètres.
On avait reçu Patrice Serre.
Ils sont occultés d'ailleurs parce que les Chinois ne veulent pas qu'il y ait une antériorité de la race blanche chez eux.
On avait reçu surveillé par l'armée Serre rouge. Qui avait fait tout un topo sur l'empereur, comment il s'appelait, Chan. Chan.
Oui,
un super bouquin. Ouais. Et alors, donc, là, je voudrais revenir à ça, parce que ça me plaît bien. Moi, je suis plutôt. J'ai plutôt une passion pour les journaux et les revues, les magazines. Et alors, vous publiez Tribune Gauloise, le premier magazine d'histoire gauloise, au singulier. Et alors, ce que j'en ai vu, c'est bien fait. C'est-à-dire que c'est à la fois un travail d'ethnologue, d'historien, mais un travail de journaliste, un peu, si j'ose dire, people, comme on dit maintenant.
Oui, tout à fait. Enfin, moi, j'étais venu déjà il y a 6 ans ici. J'avais parlé un peu de la mouvance gauloise ou celtique que j'anime depuis une trentaine d'années en région parisienne, après avoir été en Bretagne au Croisic. Diverses structures spirituelles, guerrières, sportives, mondaines, enfin, etc. Et on avait eu déjà le besoin d'avoir un organe pour communiquer de presse. Donc on avait fondé Tribune Gauloise qui était une facture artisanale, avec des bénévoles. On faisait entre, je sais pas, 15 et 20 pages, etc. Et puis, moi, j'ai tout mis en sommeil pendant à peu près 5 ans. Alors, on renaît maintenant, le phénix renaît de ses cendres. Et j'ai eu la chance de rencontrer une équipe, effectivement, professionnelle, un ancien éditeur professionnel, qui nous aide à faire ce journal qui est très bien fait. Alors, on a le fond, si vous voulez, on a le fond culturel de tout ce que j'ai accumulé, puisque moi, je dis souvent en rigolant, mais c'est sérieux, que je suis bac plus 5 dans les études françaises et bac plus 30 dans les études celtiques. Donc, déjà, avec ce qu'il y a écrit dans le bouquin dont on vient de parler, j'ai de quoi alimenter la revue pendant 10 ans.
Alors, ce bouquin, il faut donner le titre, il s'appelle Européen, qui sommes-nous?
Voilà.
De Bernhard Guyot de Pravieux. Voilà. Et alors, je vais vous donner quelques noms d'Européens qu'on trouve dans ce étudiant. Les Hyperboréens, les Gloséliens, les Arméniens, les Tziganes, les Magyars, les Lusitaniens, les Ligures, les Ombriens, les Falisques, les Venettes, les Thraces, qui en laissent d'ailleurs, les Daces, les Celtes, les Grecs, les Basques, les Rétiques, les Agnicoussi, alors là, les Tartessiens, les Tocariens, les Atlantes, les Vernésiens, Varnésiens, les Basques, les Étrusques, les Sarmates, enfin, on a l'impression que ils ont été d'une prolificité extraordinairement. Et Tribune gauloise, alors ça c'est rigolo comme tout, parce que je vous dis, les titres de la une, l'Atlantide retrouvée, bon ça c'est assez classique, Guillaume Tell, la fin d'un mythe, un peu pied sur Guillaume Tell, qui est José Bové, parce qu'on nous bassine toute la journée en nous disant Bové c'est le nouvel Astérix et tout, alors là il... On peut pas dire qu'il sorte amélioré de ce papier. On n'a pas envie de voter pour lui.
Non, on vote pas pour lui.
Le papier se termine d'ailleurs en disant ben voilà pourquoi je voterai pas pour Bové. il est question de Jan Bertilenon.
Oui, Jan Bertilenon.
Grande figure
du mouvement celtique à Paris.
Du mouvement celtique à Paris et
qui se présente à la présidentielle.
Galeriste.
Oui. Qui se présente pour la troisième fois. On l'avait présenté la dernière fois. Et
un druide président. Il est druide, Jan Bertilenon.
Il est druide, bien sûr.
Et un druide président. Également un article sur les Suisses, qui sont aussi des Gaulois.
Oui.
Et puis alors, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais vous allez certainement pouvoir me l'expliquer. Il y a un article, on se demande en quoi c'est gaulois, s'appelle « Le scandale des divorces pour faute ».
Eh bien, écoutez, mon directeur de publication a eu un divorce catastrophe, il n'a pas vu son fils pendant X années, il a gagné beaucoup d'argent avec l'édition, et puis il s'est retrouvé en faillite, enfin bref, tout ça à cause d'un divorce. Bon, c'est un peu mon histoire personnelle, je suis pas là pour la raconter, mais enfin moi j'ai eu 18 procès, j'ai pas vu mon fils pendant 20 ans, j'ai vendu deux baraques, enfin etc. quoi. Enfin, vous connaissez, c'est le pays des droits de l'homme.
Ouais.
Marie-toi, mon vieux, marie-toi.
Merci, Goffin, ça y est. Goffin va nous faire son numéro.
C'est 8 mars, journée de la femme demain.
De batteur de femme.
10 € franco pour battre ta femme tous les jours. Mon ordre, Patrick Goffin, chez Serge de Becquetch, 4 place Francis, 75-010, Paris.
Serge de Becquetch.
Oui, puis c'est quand même la journée de la femme demain.
Je prends rien, hein, je touche pas. Non, ce qui est amusant, c'est que, en fait... on peut certainement trouver un lien entre cet article qui paraît complètement incongru dans cet endroit et la nature même de la revue. On sent bien que c'est une revue qui est ethnique, ethniste.
Un peu ethnique, oui. Ethniste, hein, oui.
C'est vrai que les lois modernes sur l'avortement, sur le divorce, tout ça, sont des lois qui sont... qui détruisent les sociétés traditionnelles, la famille traditionnelle.
Tout à fait. On a, disons, un lobby, je ne sais pas quel nom il faut lui donner, qui essaye de nous imposer le matriarcat, alors que traditionnellement, la famille européenne est patriarcale, disons.
Et alors, il y a un article intitulé « La littérature contemporaine peut-elle être ennuyeuse ?» Feuilleton littéraire de Sylvain Lassalle. Alors, je ne l'ai pas lu, mais je vais regarder ça parce que moi, j'ai une réponse. Mais...
Enfin, pour résumer, si vous voulez, c'est un journal qui est à mi-chemin entre Historia, le journal de Jean-François Kahn, puisqu'on a de l'actualité, et puis Tribune juive, si vous voulez, puisqu'on est un peu ethnique aussi.
Tribune druide, vous voulez dire.
Tribune.
Voilà. Non, c'est bien fait, c'est marrant, c'est joliment illustré. Il y a par exemple, sur la Suisse, vous avez tous les blasons. Des cantons, Voilà. Alors, je donne l'adresse. L'adresse, c'est... Je vais la trouver tout de suite. 26 rue d'Enraymond, 75-018 Paris. Et l'abonnement est de 35 euros.
35 euros pour 12 numéros. Oui, ça paraît tous les mois puisqu'on fait de l'actualité.
Tribune Gauloise, 26 rue d'Enraymond.
Un numéro tout 18e. Seul, 3,50 €.
Le numéro tout seul, 3,50 €. Oui.
C'est vrai que Hugues Hoffmann me fait le reproche de ne pas avoir donné la parole à Jean-Pierre Rondeau, mais enfin, il a pris la parole quand il l'a voulu. Mais,
le livre.
Ah oui, le livre.
Le
oui,
livre,
oui.
On le trouve aux éditions BJ, c'est-à-dire Bernard Jacquelin. 17 rue Etex, 75-018, en envoyant un chèque de 25 euros.
Comment voilà. Écrivez-vous Etex?
ETX. 18e, tout se passe dans le 18e.
Deux minutes, Jean-Pierre, remonter le moral.
Comme non, je pense qu'il aurait effectivement été intéressant de parler des marchés, parce qu'il vient de subir, quelques trucs. Bon,
il faut continuer.
Bah là, c'est un peu trop court pour en parler.
En deux
on
mots,
peut pas en parler comme ça.
On en parlera plus ou moins la prochaine fois, si vous voulez. Ça va pas,
il faut c'est pas pour moi. C'est... Comment il ne faut pas encore acheter, je pense. Il faut attendre
que ça baisse encore.
Que ça bouge encore un peu, oui, absolument. On attend d'ailleurs ce soir donc un discours et on attend demain après-demain on attend des chiffres donc aux États-Unis donc je pense qu'il faut de toute façon pour l'instant attendre ça a baissé pas mal. Il faut se dire qu'au mois de mai l'année dernière jusqu'en en juin on avait baissé de 15%, on est à moins 7 là depuis le plus haut récent donc ça peut encore corriger mais c'est pas les fondamentaux sont pas n'ont pas tellement bougé aujourd'hui par rapport à il y a un mois ou deux mois. Bon, et tout ce qui s'est passé, c'est une série d'événements. C'est la Chine avec la réunion de son congrès où on a pensé qu'il y aurait des restrictions en matière de spéculation. Donc, crack en Chine, premier point. Deuxième point, le discours de Greenspan, mais qui est normalement un type qui n'est plus en fonction. Donc, est-ce qu'il a... Enfin, il a une valeur, mais il a une valeur secondaire.
Mais est-ce qu'il travaille
secondaire.
Pas pour sa propre
voilà, politique. Et puis les inquiétudes qu'on a depuis longtemps et que moi j'ai d'ailleurs, sur lesquelles j'ai attiré l'attention, c'est les crédits aux États-Unis en matière d'immobilier, etc. Donc, qui aussi donnent quelques inquiétudes sur le ralentissement américain. Mais voilà.
On nous dit qu'il faut acheter de l'or, enfin pour ceux qui ont des moyens d'acheter ou pas. Quelle est votre opinion?
Pour moi, l'or, de toute façon, c'est quelque chose qui ne paie pas de coupon. Bon, alors bien sûr, on aura toujours les clients qui ont une écharpe bleue, qui croient que la catastrophe mondiale va arriver, les lingots pour partir au Luxembourg et tout. Bien sûr qu'il faut avoir, on peut avoir de l'or et on en a notamment à travers certaines mines d'or, etc., à travers des titres qui au moins payent du coupon. Maintenant, l'or physique, je vous dis, à part si on croit à la guerre, un événement exceptionnel, bon, voilà, on peut en avoir un peu, mais ouais, de toute façon, ça ne devrait jamais représenter un gros...
On en aura qu'un peu.
Oui, voilà. De toute façon, pas de
et je rappelle que le lingot d'or était descendu quand même de 100 000 francs à 40 000 francs à une époque. Donc, voilà.
Merci Jean-Pierre Rondeau, merci à tous, bonne semaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 7 mars 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 8 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30.